Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement. Aujourd'hui, j'accueille Tania Lui, docteur en biologie moléculaire. Et aujourd'hui, bah, tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais aujourd'hui, parce que je suis pas sûr de
Ah, c'est
savoir
une bonne
exactement.
question. Moi non plus, je sais pas trop. Bonjour déjà. Effectivement, à la base, je suis virologue et docteur en biologie moléculaire et j'ai décidé d'arrêter la recherche après ma thèse pour faire de la médiation scientifique. Et dans le cadre de la médiation scientifique, j'ai fait pas mal de trucs. La première chose que j'ai faite, c'est rester au chômage longtemps, ce qui m'a donné l'occasion de lancer une chaîne YouTube, n'est-ce pas?
Ouais, c'est pas comme d'autres,
Ouais, je crois
hein.
qu'on est
Genre
assez
moi.
nombreux, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un poste comme médiatrice. Donc vraiment, j'animais des ateliers dans un centre de sciences, j'allais faire des activités en classe. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc que je continue à faire, mais plus autant qu'avant. Parce que j'ai aussi fait pas mal de gestion de projet. J'ai organisé la venue de chercheurs dans des lycées, j'ai géré des comptes Twitter collaboratifs. J'ai travaillé à L'Heure et Café, qui est un café à vocation pédagogique qui a ouvert à Toulouse. On a eu la chance de recevoir un certain Lé Nguyen à un moment,
Ouais, c'était très sympa d'ailleurs.
où là j'ai créé des ateliers. Et maintenant, depuis 10 jours, je travaille dans une structure où je coordonne le pôle médiation. Je vais faire des ateliers de temps en temps et je vais travailler sur un projet secret que je n'ai pas encore le droit de révéler, mais qui promet d'être très très cool. Et à côté de ça, je monte ma boîte pour faire de la médiation en plus, parce que tout ça, c'est du travail à temps partiel. Donc ça me laisse
Ouais.
plein de temps pour faire d'autres projets à côté, et c'est très chouette.
Ok. Du coup, on va peut-être revenir un peu plus en arrière. Comment tu t'es intéressé à la virologie?
Ah, grande question. La raison pour laquelle j'ai choisi la virologie à la base, c'est que c'était le domaine de la biologie qui permettait de toucher à tout en même temps.
Ouais.
C'est-à-dire que j'aimais bien la biologie moléculaire, mais je trouvais ça dommage de se limiter à travailler à une seule échelle. Et en fait, quand on fait de la virologie, on peut travailler à l'échelle de la molécule, à l'échelle de la cellule, à l'échelle de l'organisme, voire à l'échelle de la population. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que les virus sont pleins de surprises. Et ça, pour un chercheur, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas par rapport aux virus. Il y a plein de choses qu'on pense comme acquise en biologie, et puis quand on regarde les virus, on se rend compte qu'en fait, ben non, pas du tout.
Ouais.
Donc ça laissait plein de portes ouvertes à la curiosité, et bon, en général, je pense que quand on se dirige vers la recherche, c'est qu'on est curieux. Et c'est
Ouais.
comme ça que j'ai fini en virologie.
Ok. Avant ça, t'as toujours, enfin, est-ce que du coup, tu t'es toujours dirigé, enfin, t'as toujours voulu faire de la recherche ou c'était assez naturel ou?
Ouais, ça a commencé assez tôt. Il y a eu une grosse crise existentielle, comme beaucoup au lycée. Ne paniquez pas
Ouais.
si vous êtes en première et vous savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. C'est normal.
Ouais.
Puis j'hésitais entre des trucs très différents, hein. J'hésitais entre comédienne, critique littéraire, prof de matière scientifique ou chercheuse en bio. Donc il y avait un panel, voilà. Et en fait, un jour, je suis allée à un salon d'orientation et je suis allée voir une personne du CNRS en disant « Bonjour, si je veux être enseignant-chercheur, il faut faire quoi ?» Et elle m'a dit, bah, faut aller en prépa, idéalement intégrer normal sup, et c'est la voie royale pour être chercheur en bio. J'ai dit, bon, allez, ok. Et j'ai fait ça, et tout a marché, donc je suis allée jusqu'au bout.
T'aurais eu
Voilà.
lui demander comment avoir un prix Nobel, quoi. Elle t'aurait dit et tu l'aurais fait, quoi.
Ouais, j'aurais dû lui demander comment avoir un poste de chercheur, ça m'aurait un peu plus aidé,
Déjà.
et... Voilà.
Ouais. Okay, du coup, ta thèse en particulier, c'était sur quoi?
Ah, c'est une grande question. J'ai travaillé sur 4 projets différents pendant ma thèse, mais il y en a qu'un qui a été publié. Donc il y en a qu'un dont je peux vraiment parler parce que le reste est encore un peu dans des cartons. En fait, quand j'étais en master, j'ai fait ma thèse dans le même laboratoire que celui où j'avais fait mon master 2. L'équipe avait identifié une protéine capable d'empêcher l'infection de certaines cellules par le VIH. Et c'était une protéine qui était très peu étudiée. Du coup, il y avait un peu tout à découvrir sur ce truc-là. Et on s'est rendu compte que cette protéine n'était pas exprimée que en cas d'infection par le VIH, mais qu'elle était là un peu tout le temps dans les cellules, ce qui est assez surprenant parce que c'est pas ce qui se passe normalement pour les facteurs antiviraux. Et du coup, mon projet principal de thèse a été d'essayer de comprendre quelle était la fonction de cette protéine-là en dehors du contexte de l'infection par le VIH. Donc en fait,
D'accord.
j'étais dans un laboratoire de virologie pour ne pas faire de virologie, parce que la vie fait souvent ça dans la recherche. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette protéine était, alors, les mots compliqués, c'est un garant de l'homéostasie cellulaire. Concrètement, ça veut dire qu'elle est très importante pour que tout se passe bien dans la cellule. et on s'est
Ok.
rendu compte qu'elle était perdue dans pas mal de cas de cancer.
D'accord. Alors, du coup, comment vous détectez une protéine?
Ah, il y a plein de façons de détecter une protéine. Il y a plein
Ouais.
de techniques expérimentales différentes. Souvent, ça revient à un moment ou à un autre à utiliser des anticorps.
D'accord.
Parce que donc les anticorps sont des petites molécules qui sont elles-mêmes des protéines. On se mord un peu la queue, mais bon, produites par notre système immunitaire et qui sont spécifiques de ce qu'on appelle, comment dire ça simplement, de motifs moléculaires qu'on va retrouver chez des pathogènes. En
OK.
gros, c'est ce qui nous permet de détecter les pathogènes quand on est infecté, etc. Et donc c'est un truc qui est produit spontanément par notre organisme et l'organisme d'autres mammifères notamment en cas d'infection. Et donc on produit des anticorps contre la protéine qui nous intéresse en injectant tout ou partie de cette protéine chez des animaux et en récupérant leurs anticorps. Donc souvent ça va être des souris ou des lapins, des trucs comme ça. Et une
Ouais.
fois qu'on a récupéré ces anticorps, on les couple avec une technique de détection. Et là, il y a plein de possibilités différentes. Des fois, c'est l'émission d'une protéine, d'une couleur fluorescente qu'on peut détecter au microscope. Des fois, ça va être des trucs qui sont modifiés, qui produisent de la lumière et qu'on peut détecter avec des plaques photographiques. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir un anticorps spécifique de la protéine qui nous intéresse, qui va pouvoir
Ouais.
se fixer dessus. Et ensuite, on couple un système de reconnaissance à l'anticorps en question.
Ok. Et du coup, quand tu as commencé ta thèse, il y avait, enfin, il y avait un anticorps
Alors,
découvert pour, enfin, conçu pour cette protéine,
ouais.
c'est ça?
Alors, cette protéine s'appelait SAMHD1, donc on
Ouais.
l'appelait SAM parce que c'est plus pratique.
Ouais.
Et ouais, il y avait déjà des anticorps pour l'étudier.
Ok.
Mais ceci dit, c'est pas un truc si évident que ça parce que un des projets que j'ai abandonné au cours de ma thèse, c'est un projet pour lequel on s'intéressait à une protéine où on n'a jamais trouvé d'anticorps qui fonctionne.
Ok.
Donc j'en avais testé en une dizaine qui étaient vendues dans le commerce, donc qui étaient censées marcher et qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner avec nos techniques de détection à nous.
Ok.
Donc c'est pas
Ouais.
si évident.
D'accord.
Ça peut encore aujourd'hui être de temps en temps un problème technique.
D'accord. Et ensuite, comment t'as fait pour essayer d'étudier, parce qu'après, tu as cherché à étudier les fonctions de cette protéine, c'est ça?
Ouais.
Et donc, comment tu fais ça?
Ah bah, étudier les fonctions en général, c'est une vaste question. Si tu sais pas du tout ce qu'elle fait et que t'as pas la moindre idée de par où regarder, ça va quand même être un peu compliqué. En général, la première chose à regarder, c'est avec quoi interagit cette protéine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. On purifie notre protéine à partir de cellules où elle se trouve. Et on a des techniques comme la spectrométrie de masse ou des choses comme ça qui permettent de voir avec quoi elle interagit. Donc ça
Ok.
donne déjà une idée des types d'actions auxquelles elle peut participer dans la cellule. Et ensuite, à partir de ça, on conçoit des expériences. Nous, on avait en tête qu'elle interagissait avec les briques qui constituent l'ADN.
Ouais.
Donc, mais les briques séparées. À l'époque, on savait pas du tout si ça interagissait avec l'ADN en tant que tel. Et du coup, on s'est dit, bon, si elle interagit avec ces briques-là, il y a une chance pour qu'elle joue un rôle dans la prolifération cellulaire. Parce que la première étape pour qu'une cellule puisse se multiplier, c'est qu'il faut qu'elle copie son ADN. Donc, si on modifie la quantité de briques qui est présente dans la cellule, on va modifier la façon dont la cellule peut copier son ADN et se multiplier. Donc, la première chose qu'on a regardée, c'est est-ce que si on enlève notre protéine ou qu'on en rajoute encore plus que ce qu'il y a normalement, ça modifie la
Ouais.
vitesse de prolifération des cellules? Et la
Okay.
réponse était oui. Donc, on a
Ouais.
continué dans cette voie-là.
Ouais, cool. Et est-ce que du coup la protéine donc Sam pour l'appeler de son doux prénom
C'est ça.
du coup Sam vous connaissez sa séquence d'acides aminés ou
Oui, ça, bah, c'était, j'ai commencé ma thèse en 2011. Donc on
ouais.
était déjà bien avancé sur les techniques de séquençage et de trucs comme ça. Et en plus, on travaille chez l'homme. Chez l'homme, le génome humain a déjà été séquencé. Alors, c'est pas si vieux, hein, ça a une quinzaine d'années, un peu plus
OK.
maintenant. Mais du coup,
Ouais.
le génome humain est déjà séquencé. Il y a déjà des bases de données sur Internet avec toutes les séquences de protéines, etc. Et en plus, SAMHG1 était connu comme lié à une maladie génétique.
D'accord.
Donc assez peu étudié parce que c'est un syndrome merveilleux où les nourrissons meurent très jeunes quand la protéine n'est pas là.
Ouais.
Mais du coup, il y avait déjà eu des études de séquence qui avaient été faites justement par rapport à cette maladie génétique-là.
D'accord. Et est-ce que vous connaissez aussi le repliement parce que donc le repliement
Ça, c'était
enfin,
plus
spatial.
compliqué. Non, on n'avait pas la
Non.
structure. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir la structure d'une protéine que d'avoir sa séquence. Parce que la technique principale pour faire ça, c'est une technique qui passe par de la cristallographie, et ça veut dire qu'il faut déjà réussir à faire des cristaux propres avec la protéine en question. Et c'est un peu du tâtonnement, parce que chaque protéine est différente, donc les conditions optimales sont différentes, ça coûte super cher, c'est très compliqué à analyser, donc quand on a commencé à travailler dessus, on savait pas. Et en fait, le fait que cette protéine ait été identifiée comme capable de bloquer l'infection de certaines cellules par le VIH a déclenché un énorme effort de recherche dessus. Et c'était assez intéressant parce qu'en parallèle de ma thèse, il y avait plein de publications qui sortaient par d'autres équipes avec la structure notamment, d'abord juste de certaines parties, puis de la protéine entière. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle agissait pas toute seule, elle agissait en se collant à d'autres protéines comme elle. On appelle ça des dimères quand il y en a deux, des tétramères quand il y en a quatre. Et du coup, il y avait toute une partie de la recherche qui était d'essayer de comprendre quelle était la forme active. Est-ce que c'était la protéine toute seule? Est-ce que c'était deux protéines? Est-ce que c'était quatre? Et tout ça se faisait un peu en même temps. Ouais.
Du coup, ça a beaucoup bougé, du coup, j'imagine, pendant ta thèse,
Ouais,
beaucoup
ça
de
a
faire.
énormément bougé. C'était un peu frustrant parce qu'on était, à ce moment-là, on pensait en tout cas, il n'y avait pas d'autres publications sur toute la partie en dehors du VIH. Tout ce qui était fait par rapport au VIH, parce que c'était le contexte de découverte, parce que c'est un domaine où il y a un peu d'argent pour travailler, et parce que ça a un gros impact en santé publique. Et le plus intéressant pour moi, ça a été qu'à la fin de ma thèse, il commençait à y avoir d'autres publications en lien avec la fonction de cette protéine et son rôle dans le cancer. Et
Dans le
maintenant,
cancer.
quand on regarde la biblio, il y a à peu près les deux qui s'équilibrent.
Du coup, elle a un rôle à la fois sur le VIH et sur le cancer.
Ouais, elle est parfaite, cette protéine.
Du coup, ça a un rôle plus important qu'on croyait au début, c'est ça?
Ouais, carrément. On pensait, alors. En fait, le truc, pour remettre un peu dans le contexte, c'est que les gens qui travaillaient dans le domaine du VIH cherchaient à identifier cette protéine depuis des années. On savait qu'il y avait un truc, qu'il y avait un truc qui, dans certaines cellules, empêchait l'infection par le VIH, mais on savait pas quoi. Du coup, quand ça a été identifié, tout le monde était à fond parce que c'était le mystère enfin résolu, et du coup, on allait pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait exactement. Et en fait, le fait que cette protéine soit là tout le temps et pas juste en cas d'infection, c'est vraiment pas commun pour les facteurs antiviraux parce que l'organisme n'a pas d'intérêt à produire des trucs en continu s'ils servent à rien. Donc la plupart des facteurs qui répondent aux infections, que ce soit par un virus ou par autre chose, sont produits au moment de l'infection, quand l'infection est détectée. Et le fait qu'elle soit là tout le temps, ça montre vraiment qu'en fait le rôle est très important. Et alors nous, on avait travaillé surtout dans le contexte du cancer, mais on se rend compte que ça avait aussi un rôle sur la réparation des dommages causés à l'ADN, qui est un truc qui se passe en permanence dans nos cellules parce que leur ADN est agressé tout le temps. Donc ouais, vraiment, on est sur un niveau d'importance assez élevé.
C'est cool. Et du coup, quelles seraient les, enfin, comment tu imagines évoluer les choses? Est-ce qu'on pourrait comprendre suffisamment pour, enfin, quelles seraient les conséquences de mieux comprendre cette protéine?
Il y a des gens qui travaillent dessus en permanence, à chaque fois. Alors, je vais pas regarder la biblio tous les 2 jours, hein. Pour être honnête, là, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Mais à chaque fois que je vais voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles publications. Le premier impact potentiel de mieux comprendre, c'est celui qui est lié à l'infection par le VIH. Parce que du coup, les cellules dans lesquelles ça bloque l'infection, c'est des cellules immunitaires impliquées dans le déclenchement de la réponse immunitaire. Donc, on pense que c'est une des raisons qui permettent au virus de mieux se cacher. Donc, si on arrive à faire sauter ce verrou-là au moment où on essaye de mettre en place un vaccin, par exemple, ça permettrait que l'organisme repère mieux le virus et du coup qu'on ait une meilleure réponse à des vaccins. Ça, c'est une des pistes pour le VIH où ce serait vraiment important de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas évident d'aller éliminer la protéine directement dans les cellules du patient, alors que si on comprend comment elle marche, on peut bloquer son action avec un moyen plus simple. Moi, pour le cancer, il y avait un truc qui m'avait hyper intéressé et que pour le coup, j'ai pas encore revu dans la biblio. C'est que quand je faisais mes expériences dans mes boîtes en plastique, dans mon petit laboratoire, le fait d'avoir enlevé SAM chez certaines cellules les rendait résistantes aux molécules qu'on utilise en chimiothérapie. Donc, on est très éloigné d'un vrai contexte clinique, mais l'idée, c'est que si un patient qui a un cancer n'a plus SAM, c'est possible que ça ne serve à rien de lui donner certains traitements. Et ça, en termes d'implication, c'est énorme parce que ça peut éviter de traiter dans le vide avec des gros effets secondaires juste en regardant si cette protéine est présente ou pas. Ça, pour moi, c'était le résultat le plus important de ma thèse et pour l'instant, c'est un truc que j'ai pas encore trop vu ressortir. Et au-delà de ça, Le fait que Sam soit impliqué dans la réparation des dommages à l'ADN, ça veut dire que surveiller cette protéine, ça pourrait, alors j'extrapole énormément, hein, mais ça pourrait aussi permettre de détecter le moment où les cellules partent en vrille quand il y a un cancer qui se développe.
Ok.
C'est-à-dire que si on perd cette protéine-là, on va perdre tout un système de réparation et de surveillance de l'état de l'ADN, et du coup, ça peut se dégrader beaucoup plus rapidement ensuite. Donc ça
Ok.
peut aussi être une piste de surveillance pour établir des diagnostics précoces, par exemple.
Ok. Du coup, donc si je comprends bien, donc l'idée c'est qu'on pourrait mieux diagnostiquer les patients et savoir quels sont, enfin, ce qu'ils, niveau SAM, ils se portent bien, et du coup adapter des traitements en fonction de cela.
Ouais, potentiellement.
Ouais. Et ouais. Ok. Cool. Et du coup, t'as bien aimé ta vie de chercheuse, de doctorante?
Alors, il y a des choses
Si
que j'ai beaucoup aimées et des choses que j'ai pas du tout aimées, parce que j'ai
tu...
arrêté après quand même.
Ouais.
Non, il y a la recherche en général, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est pas toujours très gratifiant. Je sais pas si les gens se rendent compte. Alors, c'est peut-être encore pire en sciences expérimentales où on dépend de plein de conditions sur lesquelles on ne maîtrise rien. Mais je sais pas si les gens se rendent compte du nombre d'échecs qu'il faut avant de réussir à faire marcher une expérience et à avoir un résultat. Moi, j'ai fait des expériences, bah, quand on regardait l'influence de SAM sur la prolifération des cellules, c'était des expériences qui duraient plusieurs semaines.
Ouais.
Donc, tous les jours, fallait aller récupérer les cellules, les compter, etc. Et quand tu fais un truc comme ça et qu'il y a une panne de courant et que l'endroit où sont rangées tes cellules passe de 37 degrés à 35 degrés dans la nuit, tu jettes tout et tu recommences.
Ouais.
Alors que
Yes.
c'est extrêmement long, ça utilise beaucoup de temps, beaucoup de matériel, etc. Et ben, il y a une panne de courant, tant pis, on jette, on refait, quoi.
Ouais. Ça arrive
Et
souvent, du coup,
ça,
ça?
les pannes de courant, non, parce que tout est
Non, mais...
sécurisé, mais les petits aléas expérimentaux, ouais, ça arrive. Et au-delà de ça, en plus, il y a l'erreur humaine. Je veux dire, on est
Ouais.
humain. Quand on se retrouve à devoir récupérer 40 échantillons tous les jours pendant 3 semaines, des fois, on en inverse un ou deux, quoi.
Ouais.
Des fois, on en renverse un, des fois, voilà. Ça arrive à tout le monde. Et puis, voilà, on travaille sur du vivant. Donc,
Ouais.
forcément, il y a une grosse part d'aléatoire. C'est très intéressant en soi, parce que c'est comme ça qu'on trouve des choses auxquelles on s'attendait pas et qu'on avance. Mais il y a aussi une certaine part de frustration parce que ben, quand on est en stage, c'est surtout quand on est en stage qu'on s'en rend compte, je pense, parce qu'on arrive dans un labo en se disant, allez, j'ai 3 mois pour faire un truc, et en fait, en 3 mois en biologie, on fait rien.
Ouais. Et du coup, donc, enfin, c'est une des raisons principales pour lesquelles tu as arrêté la recherche.
Non, la raison principale pour laquelle j'ai arrêté la recherche, c'est parce que c'est à peu près impossible d'avoir un poste dans mon domaine.
Ouais.
Quand je suis arrivée, on a attendu que je sois en thèse pour me le dire, c'était un peu tard, mais le jour de la rentrée de mon école doctorale, on nous a expliqué que sur tous les gens présents dans la salle, il y en aurait 10% qui feraient de la recherche à terme,
Ouais.
recherche publique et privée confondues.
Ouais.
Donc ça veut déjà dire que la probabilité de réussite à la base est pas énorme, et au-delà de ça, l'âge moyen de recrutement à l'époque, donc il y a 4-5 ans, c'était 35 ans.
Ouais, faut galérer pendant des années
Ça me
pour
laissait une
monter ça.
dizaine d'années après ma thèse, et
Ouais.
sachant que pour avoir un bon dossier, il faut avoir fait des postes à l'étranger, donc déménager tous les 2-3 ans, mais des déménagements vénères en mode changement de pays,
Ouais.
ce dont j'avais pas spécialement envie. Et au-delà de ça, en plus, moi je voulais pas être juste chercheur, je voulais être maître de conf, vraiment. Parce que
Ouais.
c'était important pour moi d'avoir des moments où tu sors le nez du guidon et t'es pas juste au laboratoire. Et
Ouais.
l'enseignement, ça me plaisait vraiment beaucoup. Le côté
Ouais.
transmission de connaissances qu'on a dans la vulgarisation, on le retrouve aussi dans l'enseignement. Et en fait, les postes de maître de conférence, même une fois qu'on a réussi à les avoir, sont très très compliqués parce que les maîtres de conférence sont censés faire de l'enseignement et de la recherche, mais ils sont aussi censés faire plein d'administratifs. Et en fait, ils travaillent à 150% et ils n'ont pas le temps de faire toutes les missions qu'ils sont censés faire dans des
Ouais.
conditions souvent compliquées parce que bon, on sait bien que le budget, c'est pas énorme, donc c'est pas énorme pour la recherche, mais c'est pas non plus énorme pour l'enseignement. Moi, j'ai déjà donné des TD pour 40 élèves dans des salles avec 30 chaises, quoi.
Ouais.
Et je me voyais pas faire ça toute ma vie. Voilà, donc je me disais galérer pour peut-être avoir un poste, et si jamais j'ai un poste, que les conditions de travail en plus soient pas folles, je vais peut-être pas me lancer là-dedans, je vais aller faire autre chose. Voilà.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais le quotidien de la recherche en soi et le travail de chercheur, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Ok. Et du coup, t'es contente quand même d'avoir fait une thèse ou tu
Ah
regrettes
ouais,
un
je
petit
suis hyper
peu?
contente. Alors, ma thèse s'est pas franchement très bien passée sur le plan humain. J'ai pas du tout la même vision du monde et de la recherche que mon directeur de thèse, et du coup, on a eu beaucoup de mal à se comprendre sur plein de trucs. Donc, c'était un peu moralement fatigant, mais à aucun moment je regrette d'avoir fait une thèse. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, il faut pas faire une thèse en se disant, je vais faire une thèse pour devenir chercheur. Ça, puis t'es bien placé pour le savoir parce que t'as arrêté après la tienne aussi. Mais la thèse, c'est une expérience intéressante, on apprend plein de trucs, on apprend bien à connaître ses propres limites aussi. C'est quelque chose d'hyper formateur pour toute la suite, mais si on y va en se disant, à la fin, j'aurai un poste, on risque une certaine déception quand même.
Donc, si tu veux revenir parler à ton toi du passé qui était en master, tu diras ça quand même.
Ouais, je lui
Tu
dirais, fais-le, mais prépare ton plan B tout de suite. Attends pas la fin de ta thèse pour préparer ton plan B.
Est-ce que tu penses qu'il y a assez de recherches en biologie moléculaire? Est-ce qu'il y a des plein d'opportunités? Faudrait faire plus de recherches dans le domaine.
Ça dépend comment on essaye de définir qu'est-ce qu'il faudrait faire comme recherche. Il y a plein de questions auxquelles ce serait important de répondre rapidement. Et le problème, c'est que bah, comme il y a une grosse variabilité, pour répondre rapidement à une question, faut qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent dessus, en fait. Pour qu'il y en ait un qui ait une chance de trouver vite, ou pour développer parallèlement plein d'hypothèses et trouver la bonne plus vite que si on les fait séquentiellement. Donc dans l'absolu, oui, ce serait bien qu'il y ait plus de recherches. D'autant que ben, moi j'étais en virologie, donc on a quand même un lien direct avec des pathologies, on sait que ça touche des patients, que ça peut avoir un vrai impact rapide sur la vie des gens. Et même au-delà de ça, la recherche fondamentale dont on voit pas les implications peut à terme donner des trucs énormes. CRISPR-Cas9, dont tout le monde parle maintenant, qui est un peu l'actu chaude de la biologie moléculaire, c'était de la recherche fondamentale sans application à la base. Donc c'est hyper important de continuer à développer ces trucs-là. Après, bon, alors chacun.
Tu peux expliquer un petit peu CRISPR-Cas9?
Ouais, alors CRISPR-Cas9, à la base, c'est quelque chose d'assez cryptique qui, en gros, correspond à une sorte de mémoire immunitaire génétique chez les bactéries. C'est des séquences d'ADN répétées qu'on retrouve chez les bactéries et qui, en fait, leur permettent de répondre à des infections. Sauf que, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi être utilisé comme un outil pour faire des modifications de l'ADN. Parce que la façon dont ça fonctionne, en très très vulgarisé, c'est qu'il y a une protéine qui va se fixer sur une petite séquence d'acide nucléique pour aller reconnaître l'ADN ou l'ARN d'un virus et le couper. Et ça, c'est ce qui fait que normalement, ça empêche l'infection, c'est que ça va se fixer sur l'ADN du virus et ça le coupe. Et ça garde en mémoire la séquence d'ADN en l'intégrant dans le génome, ce qui fait que si le virus revient, ça le recoupe, etc., etc. Ben, sauf que en pratique, pour un chercheur, ça c'est un outil pour aller modifier l'ADN à l'endroit qu'on veut, de la façon qu'on veut. Ce qui est hyper puissant, parce que jusqu'à maintenant, les modifications de l'ADN, ou elles étaient faites au hasard, ou elles étaient faites de façon ciblée, mais avec énormément de travail pour aller cibler la séquence, vérifier que c'est modifié comme il faut, etc. Enfin, moi j'ai fait des clonages comme ça pour produire des mutants, pour modifier un endroit précis de la séquence parce qu'on sait que ça va avoir telle conséquence sur la protéine et qu'on voudrait voir si ça change ce qui se passe. Et pour faire ça, ça prenait, allez, on va être gentil, 2 3 semaines faciles. Avec CRISPR, bah, c'est fait en 2 3 jours et pour beaucoup moins cher. Donc, on part vraiment de recherches très fondamentales de comment les bactéries se défendent contre les infections virales et on arrive à un outil de biologie moléculaire hyper puissant, rapide et peu coûteux.
Et donc, quelles seraient un peu les applications, par exemple, de CRISPR-Cas9, qu'est-ce que ça pourrait faire?
Alors, il y a les applications où on utilise directement l'outil en recherche fondamentale. Voilà, j'ai besoin de savoir si tel endroit de ma protéine est important pour sa fonction. Bah, je peux aller le modifier très facilement et voir si ça change quelque chose. Ça, je pense qu'en,
Accélérerait la recherche.
ouais, et ça, je pense que en pratique aujourd'hui, c'est l'utilisation principale de CRISPR-Cas9 parce que c'est quelque chose qui se fait de façon très récurrente dans les labos de recherche. et qui du coup maintenant est hyper simplifié.
Ouais.
Au-delà de ça, ça permet de concevoir des projets de recherche qu'on n'aurait pas pu envisager avant. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article hyper intéressant sur des gens qui ont trouvé un remède, alors un venin, une toxine, je sais pas exactement, mais un poison sécrété par une pieuvre, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, un poison
Ouais.
sécrété par un animal contre lequel une méduse, je pense. On n'avait pas de solution et qui peut être mortel très très rapidement. Et en fait,
Ouais.
ils ont trouvé comment agissait le poison et comment le bloquer en utilisant CRISPR pour produire plein de mutations sur plein d'endroits différents du génome et
Ouais.
voir quelles mutations empêchaient le venin d'agir.
OK.
Et produire une quantité énorme de mutations dans tout le génome comme ça, sans CRISPR, c'est un travail qui prend des années pour
Ouais.
être sûr de vraiment avoir touché tous les endroits, etc. Avec CRISPR, bah, il y a du travail d'informatique hein, pour automatiser un peu le truc, mais ça peut être fait en quelques mois. Et du coup,
Ouais.
ça devient envisageable de mettre en place des projets de recherche comme ça.
Ouais. Ouais, du coup, ça change un peu ce qui peut être fait en fait en termes de recherche
À mon avis, c'est
d'exploration.
un peu la même différence que quand le séquençage est devenu rapide et accessible financièrement.
Ouais.
À une époque, on n'avait pas du tout les séquences génétiques des outils avec lesquels on travaillait. Parce que bah, pour faire un séquençage, ça prenait des semaines, ça coûtait une fortune, et maintenant n'importe qui peut faire séquencer un truc en une semaine pour quelques dizaines ou centaines d'euros selon la longueur de la séquence.
Ouais.
Et ça a un peu révolutionné la façon dont on travaillait. Bah, CRISPR, c'est un peu la même chose.
Ouais. Et ouais. Et puis ça pose, enfin, on parle souvent aussi de risques que ça pourrait poser. Tu peux en parler un
Ouais,
peu?
alors ça, à titre personnel, c'est ce que je trouve le plus intéressant avec CRISPR. C'est qu'on est vraiment sur une technique qui s'est développée plus vite que la réflexion éthique qui va
Ouais.
avec.
Ouais.
Je pense que la plupart des gens, quand ils pensent à CRISPR, ils pensent au bébé qui a été génétiquement modifié par cette
Ouais.
technique-là. Parce que bah, le fait de pouvoir faire des modifications très précises, sans toxicité pour les cellules, en gros,
Ouais.
ça permet aussi de commencer à réfléchir à de la génétique humaine, aller modifier une cellule œuf avant de l'implanter et avant le développement de l'embryon. Et toutes les questions éthiques qui sont liées à ça se sont vraiment matérialisées et sont devenues importantes dans la tête des chercheurs et de la communauté en général parce que l'outil est arrivé.
Ouais.
Et c'est un peu les mêmes réflexions que toi tu peux avoir par rapport aux IA, je pense. La
Ouais.
situation, elle est là. Maintenant, il faut qu'on y réfléchisse très très vite parce qu'elle va pas nous attendre pour continuer à se développer.
Ouais.
Et c'est à la fois très inquiétant et très intéressant.
Ouais. Et du coup, ce serait quoi les plus gros risques par rapport à CRISPR?
Plus gros risque, je veux pas donner des idées aux gens, moi.
Les gens sont bienveillants, ceux qui écoutent, j'espère.
Non, mais c'est, alors, ça a été fait vraiment n'importe comment, cette histoire de modification génétique des embryons.
Ouais.
Mais en soi, l'application de pouvoir empêcher l'existence d'une maladie génétique en corrigeant les erreurs. Ben, pour les familles concernées par des maladies génétiques et qui peuvent pas avoir d'enfants ou qui osent pas avoir d'enfants à cause de ça, c'est complètement révolutionnaire.
Ouais.
Même pour les applications en thérapie génique ou ce genre de choses, il y a des pistes hyper prometteuses, mais ça veut dire qu'on rentre dans tout ce qui est modification du génome humain.
Ouais.
Et là, il y a des questions qui se posent parce que le fait que ce soit financièrement accessible fait que c'est aussi accessible en dehors des laboratoires.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, demain, si je veux, je peux commander des séquences d'ADN et me faire une injection de CRISPR ou de je ne sais quoi dans le bras. C'est pas
Ouais.
pertinent, mais je peux le faire. Et
Ouais.
alors, bon, ça, c'est pas spécifique juste à CRISPR, hein, c'est globalement la biologie moléculaire et la génétique moléculaire sont de plus en plus accessibles et du coup peuvent être mises en place en dehors des laboratoires. Il y a un roman merveilleux qui s'appelle Je suis Pilgrim, qui est terriblement angoissant parce qu'en gros c'est l'histoire d'un terroriste qui décide de recréer une souche de virus de la variole et quand on lit ça en étant virologue moléculaire on se rend compte que c'est extrêmement crédible.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des risques de, enfin, d'attaques biologiques terroristes potentielles via ce genre de technique.
Ben, il y a toujours des risques d'attaques biologiques potentielles. Il y a des années, on parlait des attaques à l'anthrax dans le métro et ce genre de trucs, et c'était déjà des attaques biologiques hyper graves et hyper dangereuses. Donc c'est pas un risque nouveau, c'est juste que bah, les techniques de nuisance évoluent, donc les outils de surveillance et les outils de réponse doivent évoluer aussi. Je suis à peu près sûre qu'ils ont évolué en même temps, mais juste en tant que citoyen, on n'est pas au courant, quoi. Mais ça fait plus de choses à surveiller.
C'est une citation, je sais, je connais pas la source, à chaque fois je la répète, mais j'aime bien, quelqu'un qui aurait dit du coup un truc du genre, au fur et à mesure que les technologies avancent, en fait le coût de causer une catastrophe majeure diminue également.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le coût et les besoins techniques, se sont complètement effondrés.
Et du coup, les, enfin, je sais pas, des scénarios de pandémie, c'est des choses qui sont envisagées et est-ce
Ah
que ça
bah
te
les
paraît probable?
pandémies, comment dire, les pandémies, on est en plein dedans au quotidien, hein. Il n'y a pas besoin de terroristes pour ça. On coévolue avec des agents pathogènes depuis qu'on existe. Des pandémies en cours, bah, la dernière dont on a beaucoup entendu parler, c'est Zika, mais la pandémie de VIH est toujours pas terminée, loin de là. Donc c'est, comment dire. Alors, ça va être très provocateur, mais je suis virologue, donc j'aime bien faire ça. Les virus et les pathogènes ont autant le droit d'exister que nous sur cette planète. Et il se trouve que pour certains, ils existent en nous infectant avec des conséquences pas terribles. Donc, on n'arrivera jamais à les éliminer parce que les micro-organismes évoluent beaucoup plus vite que nous et que le temps qu'on en élimine un, il y en aura 10 autres qui vont potentiellement apparaître. Mais oui, on vit avec des pandémies. Il faut pas que ce soit angoissant parce qu'en fait, c'est pas nouveau, quoi. Depuis que l'humanité existe, on vit avec des pandémies. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses à faire pour réduire les risques, enfin des risques de pandémie vraiment majeurs et graves?
Former des autorités sanitaires compétentes et les écouter quand elles nous disent de ne pas faire ou de faire certaines choses. Je pense que c'est essentiellement ça. Hein. Parce que la première étape pour lutter contre les pandémies, c'est d'avoir un bon réseau de surveillance pour détecter les soucis quand ils arrivent. Et ça, aujourd'hui, on est plutôt bon. Même dans des pays où le développement du suivi médical est pas terrible, pour des raisons de moyens, la surveillance se fait quand même pas si mal. Donc là-dessus, ça va. Après, c'est vrai que, bon, là, c'est très franco-français, hein, mais on est un peu réfractaire à l'autorité quand même, on va pas se mentir. C'est un de mes profs de virologie qui nous, dans un cours sur le SRAS, qui était un virus respiratoire horrible, hyper contagieux, qui se transmet par contact indirect, etc., qui a contaminé tous les passagers d'un avion ou tous les habitants d'un immeuble en passant par les systèmes d'aération, ce genre de truc. Qui nous disait toujours, on a eu énormément de chance que ce virus-là apparaisse en Chine, parce qu'en Chine, quand le gouvernement a dit vous sortez plus de chez vous sans porter de masque, sans mettre de gants si vous avez des risques d'infection et vous restez enfermé pendant plusieurs semaines si jamais vous êtes peut-être contagieux, tout le monde a écouté. Alors que si c'était apparu en France, ça aurait sans doute été beaucoup plus compliqué de faire accepter des mesures drastiques comme ça à la population.
En effet, parce que du coup, s'il faut un comportement global, il faut coordonner pas mal de gens.
C'est ça.
Ce que souvent, du coup, les problèmes de, enfin, ça fait penser un peu aussi au vaccin, quoi, le fait que il y a, enfin, faut que tout le monde soit, aille dans le bon sens, quoi, et que s'il n'y a pas 95% de gens qui sont vaccinés, la maladie peut quand même se
Ouais,
propager.
bah 95 pour en gros le seuil de personnes vaccinées pour qu'il y ait une protection globale de la population dépend de l'efficacité de contamination. Et 95% de mémoire, c'est le seuil minimal pour protéger une population de la rougeole, qui est un virus particulièrement contagieux. Et en France, on n'y est pas du tout, et c'est pas pour rien qu'il y a des poches épidémiques de rougeole qui ressortent un peu partout ces dernières années. Donc oui,
On a
bon.
combien en France, tu sais?
Je sais pas du tout. Et je pense
Ok.
que ça doit évoluer assez rapidement. Depuis qu'il y a eu l'obligation vaccinale qui a été introduite, qui du coup a fait augmenter les vaccinations d'un côté, mais diminuer les vaccinations de l'autre parce qu'il y a des gens qui sont assez réfractaires à ça et qui n'ont pas envie de se sentir obligés à le faire, ce qu'en soi je peux complètement comprendre. Et c'est pas si évident que ça à suivre parce que bah, comme c'est censé être obligatoire, les gens qui le font pas sont obligés de cacher le fait qu'ils le font pas. Donc pour avoir une estimation réelle de la couverture vaccinale, c'est pas si évident. D'autant
Et
qu'il y a
du
un
coup,
effet local. il y a un effet local très fort. C'est-à-dire que s'il y a 100% des gens qui sont vaccinés à un endroit, mais 90 qui sont vaccinés à côté, bah, à côté, à l'endroit où il y a 90%, il y aura une épidémie. Si la rougeole arrive. Alors qu'en moyenne, ça peut arriver à 95% de couverture.
Et du coup, à t'entendre, du coup, j'ai l'impression que l'un des risques majeurs, en fait, c'est la remise en cause des autorités, le fait que des directives qui soient données par des médecins ou des virologues ne soient pas
Ah bah ça, si,
suivies.
alors, il n'y a pas des virus ou des pathogènes hyper dangereux, hyper contagieux qui apparaissent tous les 2 jours non plus, hein. Ça reste quand même assez exceptionnel et en général, ça apparaît à un endroit et si on arrive à le bloquer à cet endroit-là, on est globalement tranquille. Mais c'est sûr que si à l'endroit où ça apparaît, bah, ou bien les gens n'écoutent pas les autorités, ou bien les autorités racontent n'importe quoi, ou bien le réseau de surveillance n'est pas assez efficace par rapport à la vitesse de contamination, il va y avoir un problème. Après, il y a des cas très différents. Par exemple, Zika, c'est devenu pandémique parce que à la base, ça faisait pas de symptômes graves et du coup, on s'en méfiait pas. Et les symptômes graves sont arrivés plus tard. Donc, on n'est jamais à l'abri. Après, je pense que, comment dire? Oui, on peut beaucoup s'inquiéter de ce genre de risque biologique. Je pense que si on comparait le nombre de personnes qui ont eu des complications médicales dues à Zika et le nombre de personnes qui ont eu des complications médicales dues au tabac, on se rendrait compte qu'on est très très bon pour se faire du mal tout seul et qu'on n'a pas besoin des agents pathogènes. Hein.
En effet. Cool. Du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça, sinon je vais passer à la vulgarisation.
Ouais, il y a un truc par rapport à l'actualité de la recherche dans mon ancien domaine que je trouve merveilleux et que je suis à distance. C'est le retour de l'utilisation des virus pour lutter contre les bactéries. Parce qu'on a un gros problème avec les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques et du coup des maladies qu'on traitait très bien redeviennent mortelles. Et ça, c'est un problème généralisé à l'échelle de la planète. Et il se trouve qu'il y a des virus capables d'infecter et de tuer tout et n'importe quoi, y compris les bactéries. Et donc on peut utiliser des virus qu'on appelle des bactériophages, donc qui ciblent les bactéries, pour aller détruire des bactéries pathogènes. Et c'est un truc qui a été découvert il y a longtemps, hein, au début du XXe siècle, et qui est un peu resté dans les oubliettes. Alors il y a un aspect très intéressant sur le plan historique avec la guerre froide où ça a été plus développé dans le bloc soviétique parce qu'ils n'avaient pas trop d'antibiotiques et du coup ils essayaient de trouver une autre solution. Mais globalement ça n'a pas été très utilisé parce que bah, on manipule des virus, donc on manipule du vivant. C'est moins évident que de juste donner des antibiotiques et ça fait peur aux gens de dire bon on va vous soigner avec des virus. C'est clairement pas optimal sur le plan pédagogique. Et en fait, maintenant qu'on n'a plus vraiment de nouveaux antibiotiques et qu'on a des bactéries qui résistent à tous ceux qu'on utilise en traitement, il y a un retour de l'utilisation des virus comme potentielle voie de lutte contre les bactéries.
Puis j'imagine du coup des technologies comme CRISPR-Cas9 peuvent permettre d'accélérer en tout cas la conception de ce genre de virus
C'est ça, parce qu'on
bactériophage.
peut partir des bactériophages qui existent, se rendre compte qu'il n'y en a aucun qui cible exactement la bactérie comme on voudrait, mais commencer à les modifier un peu pour essayer d'être plus efficaces. Et ça, c'est vraiment une recherche qui est en train de se développer là maintenant et qui, à mon avis, va être hyper intéressante à suivre dans les années qui arrivent.
Cool, ouais, plein de choses à faire encore.
Ah, il y a
Plein
du
de
boulot.
potentiel. Il y a du boulot, ouais, faut s'y mettre. Cool. Du coup, on peut passer un petit peu à ta transition. On va faire la transition de ta
Allez.
transition. En parlant de ta transition. Du coup, t'as commencé à t'intéresser à la médiation scientifique pendant ta thèse ou t'as
Ouais.
lu à la fin de ta thèse?
Je suis tombée dedans complètement par hasard en allant faire du bénévolat pour filer un coup de main sur la fête de la science. Quand on est en thèse, souvent on reçoit des mails en disant oui, on cherche les intervenants pour faire tel atelier, etc. Et en fait, il y a un bâtiment dédié à la médiation scientifique qui a été créé juste à côté de mon institut de recherche pendant que j'étais en thèse. Et comme ça venait de se créer, ils avaient envie de lancer plein de projets, mais il manquait de gens, donc il y a eu beaucoup d'appels à participation. Et pour nous, c'était facile. Il y avait un couloir à traverser pour y aller filer un coup de main. Bon, voilà. Même avec un emploi du temps bien chargé de thésard, c'était assez facile d'y aller. Et un jour, je me suis retrouvée à écrabouiller des bananes avec des élèves de CE2, un truc comme ça. Et ça a vraiment changé ma vie. Je trouve ça très très drôle, mais c'est vrai, c'est vrai.
Tu voulais changer leur vie, en fait, t'as changé la tienne.
Ouais, c'est ça. L'écrabouillage de bananes, c'est pour extraire de l'ADN de bananes, donc c'est vraiment en lien avec mon domaine à la base. Et je faisais déjà de l'enseignement à la fac, donc j'avais déjà ce côté transmission du savoir. Mais c'est très différent d'être sur un public qui est pas là parce qu'il a un partiel à la fin. Et ça a vraiment changé quelque chose dans ma tête, quoi. De me dire, il y a un truc énorme à faire pour aller intéresser les gens qui sont pas forcément déjà intéressés et pour donner des clés de compréhension à tout le monde. Et du coup, j'ai continué à faire pas mal de trucs de vulgarisation pendant ma thèse. Notamment, j'ai monté une pièce de théâtre avec des chercheurs pour parler du fonctionnement de la recherche et faire réfléchir les gens. Ça a été mon gros projet quand j'étais en thèse, qui a quand même duré
Écoute,
un... Ouais.
t'as écrit la pièce, c'est ça?
Alors
Ou
non,
t'as...
j'ai
Non.
retravaillé une pièce de Brecht qui s'appelle La vie de Galilée, qui normalement dure 4 heures avec 50 personnages, pour en faire un truc d'un peu moins de 2 heures avec une quinzaine de comédiens. Voilà, et c'est quand même un projet qui m'a occupé bien pendant ma dernière année de thèse, parce qu'on a
Ok,
fait
choisis le
une...
moment le plus tranquille pour faire ça.
Oui, mais comme j'avais déjà décidé d'arrêter la recherche et que ma publication était déjà sortie, je continuais à travailler sur un projet, mais je savais que de toute façon, je le finirais pas avant de partir. Donc j'avais pas la même pression qu'on peut avoir en fin de thèse quand vraiment il faut boucler les trucs, sinon ça va mal se passer. J'ai eu un début de thèse compliqué, mais une fin de thèse plutôt confortable. Voilà, donc j'ai pu monter ce truc-là assez tranquillement. Et bah, mon directeur de thèse savait que de toute façon, j'arrêterais la recherche pour aller faire de la vulgarisation après. Et que, en fait, en montant ce projet-là, j'étais en train de préparer la suite, quoi. Donc c'était assez cohérent. Et tous mes comédiens étaient des gens qui travaillaient dans l'enseignement supérieur ou la recherche, ou des gens en lien avec ce milieu-là. Donc ça restait quand même assez cohérent avec le travail de laboratoire. Et puis dans les comédiens, il y avait le fils de mon directeur de thèse, donc de toute façon, il était moralement engagé. Oui, bon, voilà. Mais donc j'ai monté ce projet-là et ça m'a vraiment conforté, quoi. Ça m'a permis de tester c'est quoi la réalité d'un projet de vulgarisation scientifique quand on gère tout de A à Z. Est-ce que ça me plaît vraiment ou pas? Et bon, ça m'a plu, donc j'ai continué à travailler dans ce domaine-là. Et voilà.
Est-ce que vous avez fait plusieurs représentations du coup?
On a joué une dizaine de fois quand même, ouais.
Cool.
On était sur Montpellier, on est quand même monté la jouer jusqu'à Nancy, cette pièce. Donc c'était pas mal. Ça avait, honnêtement, ça a plutôt bien marché.
C'est trop cool.
Et surtout, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est que bah, je suis partie de Montpellier après ma thèse. Mais la troupe de théâtre existe encore. Donc,
Énorme.
la pièce s'appelait Galilée 2.0 à l'époque, et la troupe s'appelle maintenant Galilée 3.0. Ils sont en train de préparer leur troisième spectacle.
Oh,
Voilà.
super.
Donc, même sur le plan humain, c'est une aventure qui continue à bien marcher.
Ah, c'est super. Et du coup, j'imagine que t'as aussi rencontré des gens pendant. Parce que du coup, c'était endossé par l'Institut de recherche.
Non, c'était endossé par moi. Il y a un peu un fil rouge dans ma vie qui est que quand j'ai envie de faire un truc, bah si c'est trop compliqué de le faire porter par quelqu'un d'autre et de trouver une structure administrative, etc., bah, c'est pas grave, je le fais toute seule. Après, ça a été beaucoup soutenu parce qu'il y a quand même un certain budget quoi pour monter une pièce avec 15 personnes, des décors, machin. Et en plus, c'était une pièce qui n'était pas libre de droit, donc il y avait des frais à payer à chaque représentation aux ayants droit. Et du coup, c'était financé par la mairie, c'était financé par alors le conseil départemental, par les universités, etc. Il y a eu quand même beaucoup de soutien. C'est moi qui portais le projet, mais tous les gens à qui j'ai demandé du soutien m'ont soutenu, quoi. Donc
Super.
ça, c'était assez agréable.
Cool. Donc du coup après tu as eu ta thèse et du coup tu t'es lancé dans le chômage.
Très exactement. Non, bon. Une des raisons pour lesquelles ça a été compliqué, c'est que j'ai déménagé à l'autre bout de la France dans les quelques mois qui ont suivi ma fin de thèse pour suivre mon conjoint qui avait été muté. et qui lui avait un CDI. Donc clairement, sa situation professionnelle était beaucoup plus stable que la mienne à l'époque, et il n'y avait même pas à réfléchir 3 secondes. S'il bougeait, il fallait que je suive, quoi. Et du coup, j'ai perdu tout mon réseau.
Merde,
Parce que, bah, quand on est en thèse et qu'on fait des trucs à côté de sa thèse, c'est pas évident de développer un réseau qui soit autre chose que local. Donc, je connaissais très bien tous les gens autour de chez moi, et puis j'étais à Montpellier, et je me suis retrouvée en Normandie. Donc, réinitialisation totale du système. Ça, à mon avis, c'était le premier gros handicap. Et le deuxième handicap, c'est qu'en général, quand on commence dans la médiation, on commence sur des postes de médiateurs, c'est-à-dire de gens qui animent des ateliers. Et à l'époque, ces postes étaient souvent en contrat aidé. Et quand on sort de thèse, on n'a pas droit à un contrat aidé. Ce qui est assez logique en soi, hein, parce que c'était un dispositif qui devait permettre aux gens peu diplômés de retourner dans l'emploi. Donc clairement, un docteur, c'était pas le bon profil. Et j'ai vu passer énormément d'offres de postes auxquelles je pouvais même pas candidater, en fait. Donc ça, d'ailleurs, mon premier poste que j'ai fini par avoir au bout de 14 mois, c'était un contrat aidé. C'est juste que comme j'étais chômeur longue durée, je rebasculais dans la catégorie des gens qui avaient droit à ces trucs-là. Donc c'était un peu le double handicap. Et puis au-delà de ça, quand on arrive avec un CV de docteur, bah c'est pas forcément ce que les gens cherchent, quoi. Donc il y a des structures où ça a plu. Alors j'avais candidaté à l'INSERM et j'avais été très bien classée sur un poste parce que eux, ça les intéressait d'avoir quelqu'un qui connaissait le milieu de la recherche. Mais c'est sûr que pour un employeur, quelqu'un qui sort d'un master de communication scientifique va être plus intéressant que quelqu'un qui sort d'un doctorat en n'ayant que de l'expérience extra-professionnelle. Donc le plus dur, ça a été de trouver le premier poste. Depuis que j'ai eu le premier poste, tous les autres se sont enchaînés sans aucun souci. Mais au début, ça a vraiment été compliqué.
Du coup, ton premier poste, c'était quoi?
Alors, c'était médiatrice scientifique à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui est un musée de sciences lié à l'ESPCI à Paris, donc l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, qui est juste à côté de l'ENS, parce que du coup j'avais fait Normale Sup, donc en fait j'ai mis 10 ans pour revenir au pâté de maison d'à côté. C'était assez rigolo. Et du coup, c'était vraiment, pour un premier poste, c'était top. C'est-à-dire que c'était très très formateur, il y avait des ateliers qui fonctionnaient très bien, qui étaient des ateliers grand public. Il y avait des projets avec des scolaires, il y avait un peu de tout. Du coup, j'ai travaillé avec tous les types de publics différents, de la maternelle au lycée, aux familles, etc. Et ça, c'était. Maintenant, je sais quel public je préfère et je peux vraiment dire que je sais parce que j'ai tout testé.
Du coup, c'est quoi le public que tu préfères?
Moi, je préfère les familles. C'est pas le public le plus facile pour les animations parce que c'est un public hétérogène. Mais c'est le public le plus intéressant parce que c'est celui qui a le plus à apporter. C'est-à-dire que quand on fait une activité devant une classe, à peu près tous les élèves ont le même profil, ont les mêmes connaissances. Et du coup, si on essaye de les impliquer dans la création de l'atelier, parce que c'est ce que je trouve intéressant, moi, la différence entre une vidéo sur YouTube où on va donner un public mais sans retour direct et un atelier où vraiment tout le monde est dans la même pièce, ben moi j'essaye toujours de penser ça comme un moment d'échange et que ça fonctionne dans les deux sens. Et du coup, si on a un public hétérogène où chacun a vraiment une expérience différente et des connaissances différentes, l'échange est beaucoup plus riche.
Parce que du coup, t'as pas le problème que, parce que j'entends souvent ça, mais que lorsque c'est une famille, en gros, bah les parents ils se mettent un peu derrière, ils laissent l'enfant
Ah si, mais ça, c'est
dedans.
le travail du médiateur de se débrouiller pour réimpliquer les parents. Il faut aller les chercher, les gens.
Et du coup, tu fais comment?
Ah ben ça, ben moi, je commence toujours mes ateliers par me présenter, dire qui je suis, etc. Et si c'est un atelier avec un public famille, je dis clairement, cet atelier n'est pas que pour les enfants. Laissez-les participer en premier pour répondre aux questions, mais n'hésitez pas à poser les vôtres et à proposer des réponses. Et je suis aussi là pour vous. Et les gens se prennent au jeu très très vite.
Ça marche.
Quand on pose une question et qu'aucun des enfants a la réponse, bah c'est le moment où il faut se retourner vers les parents et dire « Alors, et vous, vous en pensez quoi ?» Et puis une fois qu'ils ont commencé à rentrer dans le jeu, ça se fait tout seul.
Cool. Est-ce que là, du coup, tu avais déjà commencé ta chaîne YouTube à ce moment-là? T'as commencé ta chaîne YouTube après
Ouais.
ta thèse?
J'ai soutenu ma thèse en juillet 2015 et j'ai lancé la chaîne YouTube en, je sais plus, en septembre ou en octobre.
Cool. Ça t'a aidé, tu penses, d'avoir une chaîne YouTube pour avoir ces postes ou
J'en
pas
sais
du tout?
rien. Sur ce poste-là, je suis pas sûre. Je sais que ça m'a aidé de façon générale pour développer un réseau.
Ouais.
clairement, parce que bon, j'ai passé aucun poste où les gens n'avaient pas regardé mes vidéos. C'est-à-dire que clairement,
OK.
sur mon CV, c'était un élément qui attirait l'attention. Après,
Ouais.
vu le nombre de candidatures qui n'ont pas marché, je pense que ce n'était pas un élément déterminant dans le recrutement, mais les gens allaient regarder en tout cas. Donc ça, il y avait un intérêt pour ça. Et ça m'a permis, en fait, YouTube m'a ouvert plein de portes.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est pas tant la chaîne en soi que le fait que avoir cette chaîne m'a permis d'écrire un chapitre dans un bouquin et d'être invité à des trucs par rapport au livre, que j'ai
Ouais.
participé à des tables rondes avec d'autres vulgarisateurs, etc., etc. Et du coup, quand on connaît les gens,
Ouais.
c'est beaucoup plus simple de travailler ensemble ensuite. Je
Ouais.
pense que ça a vraiment été une clé pour le réseau et parce que de toute façon, pour que la chaîne soit visible, ça implique de communiquer autour de la chaîne. Et c'est aussi
Ouais.
comme ça que je m'étais mise à l'époque sur Twitter, à la fois pour chercher du travail et pour rendre la chaîne le plus visible possible.
Ouais.
Du coup, bah, ça crée des échanges assez efficacement. Il y
Ouais,
a, bah,
ouais.
déjà à l'époque, il y avait cet effet de mode autour de YouTube où tout de suite ça intéressait les gens et ça lançait des discussions.
Ouais, je pense qu'on est plusieurs. Enfin, du coup, j'imagine que c'est comme moi. J'ai d'abord lancé ma chaîne YouTube et puis après, bah, je me suis dit, bon, faut que je communique. Du coup, je me suis mis un peu sur Twitter et puis maintenant, je suis
Oui,
addict
clairement.
à Twitter. Ouais. Parce que, du coup, il y a tout un réseau. Je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui, enfin, quasiment tous les vulgarisateurs doivent être plus ou moins sur Twitter et du coup, ça a permis
Ben,
d'échanger.
je pense que Twitter, c'est vraiment le réseau social des professionnels de la culture scientifique en général.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on y trouve assez naturellement les gens qui ont des chaînes YouTube et qui, du coup, sont un peu sur les réseaux sociaux. Mais même au-delà de ça, les centres de sciences, etc., ont de plus en plus souvent des comptes Twitter.
Ouais. Ouais. Et du coup, après ton poste, après ce premier poste, du coup, après, t'as fait quoi après?
Alors, je suis partie travailler dans la branche sciences et sociétés d'une fondation qui finançait, enfin, qui finance toujours d'ailleurs, c'est la Fondation Schlumberger pour l'enseignement et la recherche, qui finance des chercheurs en biologie santé. Donc ça
Ouais.
rejoignait un petit peu mon domaine à la base, mais nous ce qu'on faisait c'était monter et concevoir des actions de vulgarisation scientifique en impliquant des chercheurs, en gros.
OK.
Et là-dedans, j'ai travaillé surtout bah, sur la BioLabo, qui est un compte collaboratif sur Twitter, Facebook et Instagram, qui est animé chaque semaine par un personnel de recherche différent en
Ouais.
biologie. Donc ça impliquait d'aller motiver les gens parce que ben, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, donc c'est pas évident de les accompagner et de faire des résumés pour que ça serve. C'est-à-dire que c'est
Ouais.
bien que les gens animent le compte, mais c'est mieux s'il y a un site qui centralise toutes les biographies où les gens qui se posent des questions sur les métiers de la recherche peuvent aller regarder à quoi correspondent les différents profils. Quels sont les différents domaines de recherche en biologie, etc., etc. Donc, essayer de rendre
Ouais.
la ressource vraiment exploitable. Et l'autre gros projet à cet endroit-là, c'était, alors, Déclic, qui consiste à faire venir des personnels de recherche dans les lycées pour discuter directement avec les lycéens. Moi, j'avais
D'accord.
organisé la session 2017, du coup, si je me trompe pas. Et on avait quand même fait venir plus de 700 personnels de recherche dans une cinquantaine de lycées en France.
Ouais, cool.
Et du coup, là, c'était intéressant parce que c'était très différent de mon premier poste. Mon premier poste, j'étais vraiment exécutante sur le terrain, on va dire,
Ouais.
alors que là, je faisais tout, sauf l'exécution sur le terrain.
Ouais.
Donc,
Ouais, tu coordonnais.
en termes de formation et puis pour voir ce qui m'intéressait le plus, je pense que c'était les deux meilleurs premiers postes possibles pour avoir
Ouais.
tout testé et se faire un avis.
Et du coup, ton avis?
Alors, j'aime beaucoup coordonner des projets, et d'ailleurs je
Ouais.
continue à le faire, donc c'est pas pour rien, mais je trouve que c'est très frustrant d'être vraiment coupé du terrain.
Ouais.
Bon, ce qui m'a lancé dans la médiation scientifique à la base, c'était un atelier avec des scolaires, et je pense que c'est pas pour rien, quoi. J'ai vraiment
Ouais.
besoin et envie d'aller voir des gens.
Ouais, le contact,
Donc,
ouais. Ah,
l'échange.
vraiment la vulgarisation. Ouais. Ouais. Et donc ensuite, voilà, la suite de ton parcours de
Ouais, bah alors tout ça, c'était une période un peu compliquée parce que j'habitais en Normandie et je travaillais à Paris.
Ouais.
Donc
Donc tu
déjà
faisais
en
des
termes,
allers-retours, hein.
ouais, je faisais des allers-retours. Et au-delà de ça, moi je suis du sud, hein. Clairement, je suis née à Marseille, j'ai grandi à côté de Toulouse, j'ai fait ma thèse à Montpellier, donc la vie en Normandie, c'était pas le rêve absolu. Donc mon objectif de 2018, c'était retourner dans le sud. Voilà. Et du coup, bah Twitter. J'ai fait un tweet en disant que je cherchais un temps partiel, idéalement à Toulouse ou Bordeaux. Et c'est là que les responsables de l'Heure et Café se sont manifestés pour dire, bah écoute, on a un projet de vulgarisation à Toulouse, ce serait peut-être bien qu'on ait quelqu'un qui a un peu de bouteille dans le métier pour nous aider à monter les ateliers, etc. Et on s'est vu quelques fois, on a discuté, et puis j'ai commencé à bosser à l'Heure et Café 2 semaines après l'ouverture. Donc ça s'est fait très très
L'Heure et
vite.
Café, tu peux présenter un peu l'Heure et Café?
Ouais. Donc l'Heure et Café, c'est le premier café scientifique de France qui a ouvert à Toulouse en avril 2018, qui fonctionne sur le modèle de l'anti-café, c'est-à-dire que les gens ne payent pas à la consommation, ils payent au temps passé sur place, et tout est en libre service. Le mot d'ordre du lieu, c'est faites comme chez vous. Voilà. C'est un café où il y a une partie café avec des tables et des chaises, mais il y a aussi une partie avec des canapés, des tables basses pour se poser tranquillement. Et c'est vraiment pensé, alors, la façon de le dire, c'est que c'est un café des curiosités. Au-delà de l'étiquette science qui justement peut faire un peu peur aux gens, le but c'est que ce soit un lieu neutre avec plein de petits points d'accroche partout pour les curieux. Il y a des phasmes, il y a une fourmilière, il y a une bibliothèque, il y a plein d'objets liés aux sciences, mais qui sont là pour lancer des discussions et pour attirer le regard. Et en parallèle de ça, en soirée, il y a toute une programmation à vocation pédagogique. Donc il y a des conférences faites par des chercheurs, il y a des tables rondes, il y a des soirées théâtre d'impro et vulgarisation, il y a plein plein de formats différents. Et voilà, donc c'est un lieu un peu de... L'idée, c'était de sortir les sciences des endroits étiquetés comme scientifiques, qui repoussent forcément une partie du public, et d'être avant tout un lieu convivial dans lequel il se trouve qu'il y a du contenu scientifique qui, du coup, peut être accessible à des gens un peu différents.
Ouais, ouais ça me rappelle ce que disait Mickaël quand je l'avais interviewé, qui disait pour intéresser aux gens, les enfants à faire des maths, bah, faites des maths dans votre coin, puis au moment, ils vont jeter un œil et me dire, mais qu'est-ce que tu fais?
Mais c'est un peu ça. Et puis surtout, leur dites pas que c'est des maths.
Ouais, surtout.
Faites-leur faire du Rubik's Cube ou des trucs comme ça. Et en fait, ils vont aimer les maths sans se rendre compte que c'est des maths. Et ça vaut pour tout.
Et du coup, tu travailles encore à l'Heure et Café
Non, alors du coup, mon contrat s'est terminé au début du mois, là. Donc il y a 15 jours. Parce que c'est un endroit qui se lance, donc qui est... pas encore complètement rentable sur le plan économique. En gros, c'est normal, hein, pour un commerce, faut compter à peu près 3 ans pour fidéliser une clientèle. Et du coup, moi, mon rôle, ça a été de lancer nos propres ateliers. Donc, il y a des ateliers qui sont conçus, etc. Et là, il n'y a plus besoin de moi pour les faire tourner. Donc, l'objectif, ce serait bien que les gestionnaires arrivent à se payer eux pour me payer moi. Mais voilà, après, c'est un lieu auquel je reste très attachée parce que vraiment, je pense que l'idée est merveilleuse et que la réalisation est bien faite et qu'il faudrait qu'il y en ait partout. Donc là, j'y suis plus parce que pour des raisons économiques, c'était compliqué d'y rester. Mais, mais j'y crois vraiment très, très fort.
Et les gestionnaires sont contents de leur première année?
Bah, je pense, faut leur demander. Hein. Ils sont sur Twitter aussi. Non, vraiment, moi, ce que j'ai trouvé assez merveilleux dans ce lieu et à quoi je m'attendais pas du tout, c'est l'engouement des chercheurs. Vraiment, parce que pour du coup, sur mon poste d'avant, je passais mon temps à essayer de mobiliser des chercheurs pour des actions de vulgarisation, et on se rend bien compte très très vite que c'est toujours les mêmes motivés qui sont moteurs. Et là, à l'Heure et Café, très régulièrement, on a des chercheurs qu'on ne connaît pas qui se manifestent pour dire « Oh, moi, j'aimerais bien faire de la vulgarisation, donner une conférence. Est-ce que c'est possible de le faire chez vous ?» Et ça, vraiment, c'est hyper rassurant. La communauté locale est très, très mobilisée. Et le fait qu'il y a un lieu qui arrive, bah, ça suscite des vocations pour le remplir en proposant des activités. Ça, vraiment, c'est un truc que je trouve très, très rassurant et très, très positif.
Très chouette. Et du coup, maintenant, tu te lances dans quel projet?
Et bah, du coup, là, je travaille pour une association qui s'appelle Délire d'encre, qui est une association qui a pour but de vulgariser la science par le prisme des livres, en gros. Le créneau de vulgarisation, c'est ça, qui organise un festival notamment qui s'appelle Scientilivre, tous les ans, avec des auteurs. L'année dernière, il y avait un certain Pierre Kerner qui a vulgarisé... sur moi Parasite, on y était allé avec le Café des Sciences aussi pour parler du livre du Café des Sciences. Mais du coup, il y a plein d'ouvrages scientifiques à vocation pédagogique comme ça qui sont utilisés avec les auteurs qui s'impliquent dans le festival. Et il y a des stands de vulgarisation, etc. Il y a un deuxième festival qui s'appelle Terre d'ailleurs, qui est plus axé autour de l'exploration.
Ouais.
Et il y a tout un pôle de médiation où il y a des interventions qui sont faites dans des écoles, dans des centres de loisirs, dans des médiathèques. Et il y a
Ouais.
un gros travail qui est fait avec les médiathèques pour développer plus les activités scientifiques dans ce contexte-là, qui souvent est considéré comme très littéraire, alors qu'en fait, une médiathèque, c'est avant tout un lieu culturel. Du coup, les
Ouais.
sciences ont complètement leur place dans un lieu culturel. Voilà, c'est un des gros axes de travail. Et il y a aussi, on développe des escape games pédagogiques. Il y
Ouais.
a déjà un escape game qui a été fait l'année dernière pour la fête de la science avec Science Animation, qui est un escape
Ouais.
game qui est en fait conçu pour être donné clé en main sur Internet et n'importe qui peut le monter, et qui est
Ouais.
pensé pour les médiathèques. Donc,
OK.
qui repose sur le fait d'avoir des étagères de livres, en gros. Mais voilà. Il y a un escape game itinérant qui se passe dans la station spatiale internationale. Là, il y en a un nouveau qu'on est en train de finir. Donc voilà, il y a aussi l'idée de s'approprier un peu ce format, mais sur un mode itinérant, pour aller voir directement les gens et leur proposer un outil de médiation hyper ludique.
Ouais.
Voilà. Et moi, là-dedans, mon objectif, ça va être de coordonner le pôle médiation, parce que du coup, comme il y a plein de projets dans tous les sens, c'est important que ce soit bien coordonné pour rester
Ouais.
efficace. Et bon, j'ai bientôt travaillé sur un nouveau projet sur lequel je peux pas encore trop en dire, mais que je trouve absolument merveilleux et je suis super excitée. On a la première réunion de travail demain, là. Mais ouais, y a des trucs très très chouettes qui se préparent. Et du coup, ponctuellement, aller faire des animations. Parce que comme je disais, c'est un truc qui me tient à cœur et qui pour moi est hyper important. Et ce poste-là permet ça. D'avoir à la fois
Ouais.
l'aspect coordination et l'aspect rester sur le terrain quand même.
Ouais. Ouais, cool.
Et ça, c'est un 60%.
Ouais.
Donc il faut occuper le 40% de temps restant. Ouais. Et
Et...
bon, c'était un choix hein, d'être sur un 60% parce qu'il y a pas mal d'activités sur lesquelles je travaille, bah, notamment Billes de Science, qui
Ouais.
est la chaîne qui a été montée par la main à la pâte sur une idée de David Loapre, le fameux David
Ouais.
Loapre,
Ouais.
pour proposer des outils pour permettre aux enseignants de primaire notamment et de maternelle de développer facilement des activités scientifiques dans leur classe.
Ouais.
Donc on est tout un groupe de 7-8 vidéastes à travailler avec eux pour faire des vidéos.
Ouais.
Donc y a ça qui prend quand même un peu de temps aussi, qui est très chouette.
Ouais.
Et puis il y a les
Cool.
trucs pas encore concrétisés, mais on y travaille.
Ouais.
Bah là, l'idée, c'est... Bon, je suis auto-entrepreneur depuis un moment, parce que ben,
Ouais.
toi, tu as dû avoir le même genre de constat que quand tu es vidéaste, tu es rapidement sollicité pour faire des choses.
Ouais.
Que faire des choses entièrement bénévolement, bah, à un moment, c'est plus possible,
Ouais.
parce que ça te demande du travail en plus de ton travail, et que les vidéos sont déjà bénévoles, et que bah, le loyer n'est pas payé en visibilité ou en fame,
Ouais.
ça ne marche pas. Donc j'avais fait un statut auto-entrepreneur pour pouvoir de temps en temps être rémunéré pour mes interventions. Hein.
Ouais.
Et là, j'ai envie de vraiment essayer de lancer ça plus sérieusement pour faire alors. Je déteste ce mot, mais en pratique, c'est ça, pour faire une structure de conseil en culture scientifique.
Ouais.
Parce que, bon, ça, c'est un constat que t'as sans doute fait aussi, ce serait hyper important que les chercheurs vulgarisent plus leurs travaux et qu'on ait
Ouais.
plus conscience de ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, parce qu'il se passe
Ouais.
plein de choses intéressantes, d'une part,
Ouais.
et parce que c'est souvent financé avec de l'argent public, d'autre part.
Ouais.
Donc c'est un peu la moindre des choses de rendre compte aux citoyens de ce qu'on fait avec leur argent public.
Ouais.
Mais c'est pas un truc qui est très ancré dans la culture académique.
Ouais.
C'est pas valorisé dans les évaluations de carrière, c'est pas valorisé dans les critères de recrutement, alors que paradoxalement, ça fait officiellement partie des missions des chercheurs.
Ouais.
Dans le code de la recherche, c'est une des missions des chercheurs, la diffusion de la culture scientifique, c'est dans la liste des missions des chercheurs au CNRS, etc. Mais en pratique, ça se fait peu. Ça se fait peu parce qu'il n'y a pas. Ouais, bon, vu la proportion qu'il y en a, on peut dire qu'il n'y a pas de poste de médiateur dans les structures de recherche. Il y a des postes de
Non.
chargés de com,
Ouais.
ouais, qui font des communiqués de presse pour valoriser les publications, etc. Il n'y a pas de poste de médiateur pour faire connaître les thématiques générales de recherche.
Ouais.
Et c'est dommage.
Ouais.
Et là, ça fait quelques mois que je travaille ben, avec un ancien camarade de master qui lui a continué la recherche, il est en postdoc, pour vulgariser ses travaux,
Ouais.
parce qu'en fait, il a eu un financement de recherche européen, où en fait, dans le financement de recherche européen, il y a une case quand on décrit son projet qui s'appelle outreach,
Ouais.
qu'on pourrait traduire par vulgarisation ou diffusion, et qui consiste en gros à proposer un projet pour vulgariser les recherches auprès d'un public donné, donc du grand public, des scolaires, peu importe, hein, chacun le détermine. Et lui avait proposé un projet autour de vidéos pédagogiques. Ouais. Et il a eu son financement, donc on travaille sur ce projet de vidéos pédagogiques, et c'est hyper intéressant à faire, et je pense vraiment que c'est utile.
Ouais.
De faire sortir la recherche des labos et que les gens se rendent compte qu'il se passe des trucs. Et j'aimerais développer ça.
Ouais. Du coup, ça serait accompagner un peu les chercheurs qui voudraient faire de la vulgarisation.
Ouais, bah alors, ça va beaucoup dépendre des besoins que les gens me font remonter.
Ouais.
Pour l'instant, l'idée générale, c'est de proposer un accompagnement à la conception ou à la réalisation de projets de vulgarisation. Le public premier, ce sera les chercheurs, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de besoins aujourd'hui. Enfin, si quelqu'un qui est pas du tout chercheur me contacte, je vais l'aider quand même. C'est pas, voilà, c'est pas un critère éliminatoire, mais je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Et ça me permettrait aussi d'utiliser, bah, tout ce réseau qui s'est mis en place ces dernières années. Ouais. Où, en fait, quand on regarde les vulgarisateurs d'Internet en général, il y a plein de gens qui ont des talents absolument merveilleux, qui travaillent en indépendant, un peu tout seuls dans leur coin, et qui sont clairement pas assez sollicités pour ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que... Enfin, comment dire ? Il y a des gens qu'on sollicite parce qu'ils font des vidéos, et on les fait parler de vidéos, alors qu'on pourrait les faire parler de vulgarisation, voire leur faire faire de la vulgarisation, et c'est quand même plus intéressant, mais plus rare.
Ouais.
Moi, je sais qu'en tant que vidéaste, en général, on m'invite à des tables rondes pour parler de la vidéo sur Internet, mais on m'invite pas à faire des conférences de vulgarisation. Enfin, assez rarement, quoi.
Donc,
voilà, y a toute une manne de personnes compétentes, là, mobilisées sur des projets, et je pense que j'ai le réseau et les compétences qu'il faut aujourd'hui pour faire ce lien-là. Donc, on va essayer, et on verra bien si ça marche ou pas, mais il y a un truc à faire.
C'est un truc dont on parlait avec, je crois que c'est avec Stéphane, du fait que je pense qu'il y a, il y a quand même des chercheurs qui s'intéressent ou des instituts de recherche qui s'intéressent de plus en plus à faire de la vulgarisation. Et du coup, la question, c'est un peu, est-ce que c'est aux chercheurs de vulgariser ou est-ce que on pourrait avoir un médiateur qui maîtrise bien le domaine et qui vulgarise à la place du chercheur?
Ça, c'est un débat récurrent. Est-ce qu'il faut être chercheur pour parler de ses recherches? Est-ce qu'il faut forcément un médiateur dans un projet de médiation? Moi, je pense que ce qui compte surtout, c'est l'envie des gens.
Ouais.
Parce que on fera jamais rien de bien si on n'a pas vraiment envie de le faire. Il y a des chercheurs qui sont très motivés par la vulgarisation et qui ont, alors, potentiellement besoin d'un accompagnement au début, parce qu'il y a des conseils quand même pratiques que, quand on a fait de la médiation, on a testé sur le terrain, si on peut éviter à quelqu'un de refaire les mêmes erreurs que nous, tant mieux.
Ouais.
Mais il y a des chercheurs qui n'ont pas besoin de plus que ces conseils-là, qui sont très très bons, qui passent bien à l'oral, qui ont du charisme, qui sont drôles, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Il y en a même qui sont drôles, c'est dire.
Ouais. Les chercheurs sont des êtres humains, révélation. Mais à côté de ça, il y a aussi des chercheurs qui peuvent avoir une énorme envie de partager, mais pas de le faire eux-mêmes directement.
Ouais. Parce qu'il y a quand même un intérêt pour les chercheurs, c'est un peu la mise en avant de leur domaine de recherche et qui est important, quoi, et qui est valorisant pour le chercheur, même si c'est pas le chercheur lui-même qui l'a fait. Quoi.
Ah oui, et c'est un peu ce qu'on disait quand j'étais à la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, pour motiver les chercheurs à participer. On leur expliquait que ça concerne pas juste eux en tant qu'individus, mais que valoriser leur domaine de recherche, c'est une bonne chose en tant que, pour le regard de la société, mais ça peut aussi avoir un impact sur les financements. Je veux dire, un domaine de recherche qui est à la mode et qui intéresse tout le monde, c'est aussi beaucoup plus facile de faire financer des projets de recherche. Donc, c'est intéressant pour les citoyens, mais c'est aussi intéressant pour les chercheurs. Puis quand on discute avec des gens comme Pierre Carner, par exemple, il dit toujours que la vulgarisation, ça l'a énormément aidé dans son activité d'enseignement, par exemple.
Ouais.
Parce que tu vois les sujets d'une façon différente, tu creuses des choses que t'aurais pas creusées, parce que t'as peur qu'on te pose une question dessus, alors du coup, il faut être irréprochable sur tout. Et en faisant ça, tu découvres des pistes de réflexion nouvelles auxquelles t'avais pas du tout pensé. Donc je pense que c'est que un avantage de faire ça, mais on pourra jamais impliquer les gens de force.
Ouais.
Donc c'est aussi pour ça que c'est important de travailler en équipe et que Si un chercheur a envie de vulgariser son domaine mais qu'il n'a pas envie de montrer sa tête, par exemple, ou qu'il n'a pas envie de parler en public, ben on peut réfléchir à concevoir un projet où il peut s'impliquer sans avoir besoin de faire ça.
Et puis ça peut être aussi difficile de concilier, bah, faut que ce soit Pierre ou Pierre Kerner ou je parlais à Mehdi Moussaïd aussi récemment ou à d'autres chercheurs comme ça qui sont vraiment chercheurs et qui sont aussi très actifs en vulgarisation. Mais l'activité de vulgarisation, enfin, temps, s'ils écrivent un livre, en plus, enfin, ils ont une chaîne YouTube, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et peut-être qu'il y a des parties de ces travaux qui veulent déléguer ou juste collaborer avec d'autres personnes qui prennent partie de ce travail. Ça peut être intéressant.
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, que c'est pas facile à mettre en place pour des grosses institutions, parce que ben, plus la chaîne de validation est compliquée, plus ça demande du temps, plus il y a de l'inertie. Mais voilà, si moi, à titre personnel, je peux ne serait-ce qu'aider un ou deux projets de vulgarisation à voir le jour, ce sera déjà une grande réussite.
C'est vrai que ça c'est un point aussi intéressant, c'est que tous les projets enfin beaucoup de projets qui ont très bien marché, notamment sur l'initiative de certaines personnes, bon, notamment les chaînes YouTube, ça marche très bien aussi en partie parce que les personnes sont très libres et dépendent pas, enfin typiquement sur YouTube, on publie la vidéo, on demande peut-être l'avis d'un ou deux amis, mais ça va très vite et c'est très important pour avoir rapidement du feedback, pour s'améliorer aussi, pour avoir un processus d'itération assez rapide. Et puis aussi ça permet au projet de voir le jour plus rapidement. Alors que si on passe par des institutions, s'il y a 5 personnes qui doivent donner leur validation, les emails parfois mettent du temps à revenir. Et du coup c'est quand même important. Du coup c'est assez intéressant du coup de cibler directement les chercheurs plutôt que d'essayer de cibler les institutions à ce niveau-là.
Ouais,
Que ça.
plus on a une chaîne de validation importante, plus ça prend du temps, mais en plus ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord.
Et puis de motiver les gens, parce que enfin, si ça prend plus de temps, bah, tout le monde se démotive.
C'est la version circuit court de la vulgarisation.
Donc sinon t'as aussi été intéressé pas mal aux vidéastes, à la vulgarisation et notamment à l'aspect financier de tout ça. T'as fait quelques sondages, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, bah ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Quand je me pose des questions ou que j'ai envie de faire des trucs, si ça n'existe pas déjà et que je peux le faire toute seule, en général, je le fais toute seule. Et quand je me suis lancée dans la vidéo, en discutant avec les gens, j'avais l'impression qu'on était hyper nombreux à avoir des situations très précaires. Et que c'était notamment une des raisons pour lesquelles c'était problématique de faire des interventions bénévoles. Parce que bah, quand on est chômeur ou étudiant, prendre plein de temps pour faire du bénévolat à côté, au bout d'un moment, ça atteint ses limites. Et je me suis demandé à quel point c'était une intuition ou si c'était vraiment fondé. Et du coup, bah, j'ai fait un questionnaire que j'ai diffusé aux vidéastes, alors scientifiques, donc c'est beaucoup passé par le Café des Sciences, enfin, Vidéo Sciences à l'époque.
Vidéo science à l'époque.
Et ça avait aussi pas mal tourné sur Twitter, donc j'avais eu des réponses de gens que je connaissais pas du tout, quoi. C'est pas juste resté dans mon cercle proche, il y avait un peu plus de 90 répondants. Et ça, en fait, ça a pas mal confirmé mes intuitions parce qu'il y avait quand même 10% de gens au chômage, beaucoup d'étudiants, pas mal de doctorants, mais aucun doctorant non financé à l'époque. Tous les doctorants qui prenaient du temps pour faire des activités à côté, c'était des gens qui avaient déjà le confort d'un contrat de travail. Et ça confirmait aussi surtout qu'une chaîne YouTube n'est pas un moyen pertinent de gagner sa vie, parce que la plupart des gens avaient un bilan financier négatif. C'était même pas neutre, c'est négatif, c'est perte de l'argent. Et en plus, à mon avis, dans ce bilan-là, personne compte le temps de travail. C'est vraiment juste matériellement, en fait, ça coûte cher de faire des vidéos. Il faut une caméra, il faut un micro, il faut un logiciel de montage, éventuellement, il faut un bon ordinateur aussi.
Et puis ça prend beaucoup de temps de faire la vidéo. Je pense qu'on peut, c'est un truc sur lequel on peut insister, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, du travail que ça requiert.
Ouais, bah, surtout quand on fait de la vulgarisation, parce que je pense qu'on est assez nombreux à passer énormément de temps à travailler avant même d'appuyer sur le bouton de la caméra, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de biblio et de relecture et d'écriture du script, enfin, moi, c'est la partie la plus longue du travail, mais de très très loin. J'ai tellement peur de dire un truc faux ou d'oublier un axe important du sujet que je veux traiter que...
Ouais. Puis c'est difficile de quantifier parce que ça. Enfin, moi je fais des vidéos sur des trucs bien établis, mais du coup, ça fait des années que je baigne dedans, quoi. Du coup, comment est-ce qu'on quantifie ça?
Oui.
Ouais.
Et voilà, et du coup, bon, j'avais fait une première enquête et j'en ai fait une deuxième en élargissant au vidéaste culturel, parce que
Ouais.
bah, la science est un cas parmi d'autres. Et donc là, c'était l'année dernière, il y a eu 190 répondants. Ma
Ouais.
grande frustration sur ces enquêtes-là, c'est que comme on n'a pas de liste exhaustive des vidéastes, c'est impossible de savoir à quel point l'échantillon est représentatif ou pas. Est-ce qu'en
Ouais.
ayant 190 répondants, j'ai 80% ou 10% des vidéastes existants, j'en sais rien. Est-ce que mon panel démographique ou mon panel en termes de nombre d'abonnés est représentatif de la réalité de ce qu'il y a sur YouTube, j'en sais rien non plus. Donc je peux
Ouais.
pas corriger mes stats en fonction de ça. Ça, c'est la grosse frustration et la limite principale du travail, je pense. Mais voilà, du coup, il y a pas mal de trucs intéressants qui sont ressortis. Comme on pense que les filles ne sont pas présentes sur le YouTube culturel, mais c'est faux. Parce qu'il y a quand même un tiers de femmes. Alors, on n'est pas à la
Ouais.
moitié, certes, on est en minorité, mais un tiers, c'est vraiment pas négligeable comme proportion.
Ouais, c'est plus que la proportion chez les viewers de ma chaîne, malheureusement. Enfin,
Plus de
même
très très
beaucoup, beaucoup
loin.
plus, malheureusement. Mais... je suis à
Voilà,
6%,
donc
mais bon.
6, ah la vache. Ouais, donc les femmes sont présentes sur YouTube. Donc ça veut dire que s'il y a un déficit de visibilité, il vient pas du fait qu'elles soient pas là, il vient du fait
Ouais.
qu'elles soient pas regardées. Et
Ouais.
là, du coup, c'est d'autres questions qui se posent. Ça confirme que dans le domaine de la culture en général, faire une chaîne YouTube, c'est perdre de l'argent.
Ouais.
Et que les gens qui ont un bilan financier positif, pour la plupart, c'est à peine positif, quoi. C'est pas un moyen de vraiment gagner sa vie.
Ouais.
En gros, les gens qui gagnent bien leur vie, ça représentait moins de 5% des
Ouais.
vidéastes.
Ouais.
Et puis, c'est les très grosses chaînes. Voilà, c'est bah, Nota Bene, Dirty Biology, Nozman, ce genre de trucs, quoi.
Ouais.
Et c'est très bien que ça existe, mais c'est juste, il faut pas que les gens pensent que tout le monde gagne sa vie en faisant une chaîne YouTube, parce que c'est
Ouais.
vraiment pas le cas. Et ça confirmait qu'en fait, la population des vidéastes était plus précaire que la population générale. C'est-à-dire qu'il y
Ouais.
avait moins de gens en contrat de travail que dans la population générale, et il y avait moins de CDI sur les gens qui avaient des contrats de travail que dans la population générale.
Ouais.
Donc,
Ouais, donc faut être un peu dans la merde pour faire une chaîne YouTube.
Et voilà, ça, c'est un truc qui m'intrigue et je sais pas comment l'évaluer de à quel dans quel sens ça se passe. Est-ce que c'est les
Ouais.
gens qui ont du temps libre qui se lancent sur une chaîne YouTube et qui du coup ont des situations professionnelles pas stables, ou est-ce que c'est le fait d'avoir une chaîne YouTube qui fait qu'on peut pas
Ouais.
s'investir autant qu'on voudrait dans un travail à côté, et je sais pas dans quel sens ça marche.
Ouais. Ouais, sans doute que ça va un peu dans les deux sens. Ouais. Enfin, déjà pour quand on se lance sur YouTube, ouais, on se dit que ouais, je sais pas, ça c'est une question intéressante, en tout cas, faut.
Parce que moi, par exemple, j'ai jamais vu ma chaîne YouTube comme un moyen de gagner ma vie ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que je trouve que c'est intéressant et puis c'est tout. Mais il n'empêche que je
Ouais.
suis bien contente d'être à temps partiel, parce que sinon, déjà, même comme ça, j'arrive pas à trouver le temps que je voudrais pour ma chaîne. Mais si j'étais à
Ouais.
temps plein, je pourrais pas, quoi. Clairement, je pourrais pas.
Ouais. C'est vrai que moi aussi j'ai demandé dans mon contrat de travail à travailler qu'à 80% seulement pour dégager du temps pour faire des vidéos aussi.
Et du coup, là, c'est la chaîne YouTube qui nous met dans une situation professionnelle moins stable,
Ouais.
finalement.
Ouais. Il y a deux choses qui t'ont surprise dans ces études?
Bah, après, c'était pas forcément des surprises, mais ça confirme des intuitions,
Ouais.
que les vidéastes sont hyper sollicités. C'est-à-dire que quand on
Ouais.
demande, il y a au moins la moitié des vidéastes, mais sur un échantillon de 190, la moitié, ça fait déjà du monde, qui ont
Ouais.
été sollicités pour faire des interventions en tant que vidéaste. Donc
Ouais.
ça veut dire que ça intéresse et qu'il y a une certaine reconnaissance du travail. Après, ça dépend des types d'interventions, hein. J'avais mis tout un panel différent du livre à l'intervention télé, à la conférence, au stand, aux ateliers, etc. Mais globalement, les vidéastes sont sollicités. Par
Ouais.
contre, ils sont rarement payés pour ça. Et c'est
Ouais.
assez paradoxal parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du travail, mais qui ne va pas jusqu'à envisager de rémunérer les gens pour ce travail-là.
Ouais.
Donc
Ouais.
ça bouge. A priori, il y a une évolution sur les dernières années. Les gens qui sont sollicités depuis un moment sentent une évolution.
Ouais.
Mais la reconnaissance s'arrête avant la rémunération.
Ouais. Ouais. Du coup, toi, maintenant, c'est quoi, enfin, t'as une politique maintenant pour savoir quand est-ce que tu demandes à être rémunéré?
Ouais, j'essaye, mais
Ouais.
le principe d'avoir des règles, c'est qu'on met des exceptions dedans tout le temps.
Ouais. Ouais.
En gros, maintenant, si c'est pas rémunéré et que c'est pas que j'y ai pas un intérêt personnel, j'y vais pas parce que j'ai
Ouais.
pas le temps, simplement, hein, j'ai pas le temps.
Ouais.
Après, je dis ça, j'ai encore fait des trucs non rémunérés il y a pas longtemps, mais parce que j'avais envie, parce que c'était avec des gens que j'avais envie de voir, parce que le contexte était sympa, mais j'essaye
Ouais.
d'éviter. Parce que
Ouais.
l'emploi du temps craque de partout et que
Ouais.
déjà garder un jour de repos dans ma semaine, c'est pas évident. Alors si en plus je fais des trucs non rémunérés, puis je suis à 60% quoi, donc j'ai pas un salaire monstrueux. Le but
Ouais.
de l'auto-entreprise, etc., c'est quand même que ça devienne un peu rentable
Ouais.
financièrement. Donc
Ouais.
et après ça dépend aussi des structures qui me contactent quoi. C'est sûr que si c'est une petite association qui a pas beaucoup de budget, je peux pas demander le même salaire que si c'est une grosse boîte ou une grosse structure de recherche. Donc
Ouais.
tout ça, c'est un peu à pondérer au cas par cas. Mais j'essaye d'éviter de travailler gratuitement.
Ouais.
Faut au moins que j'y aie un intérêt d'une façon ou d'une autre, quoi. Et je pense qu'on est un peu tous comme ça. Si on va faire un projet qui est pas payé, c'est parce que ça nous intéresse de toute façon.
Ouais, parce qu'on en a parlé un petit peu. Bah, j'étais à un autre, bah, j'étais à un événement à Crax le week-end dernier où j'ai pas été rémunéré. Et c'est très sympa. Je pense que le fait quand ces événements qui regroupent pas mal de vidastes aussi, on est un peu plus motivé parce qu'on sait qu'on va voir des amis, quoi, en gros.
Oui.
Mais c'est vrai que, enfin, niveau transport, c'était quand même long, c'était horrible. C'était très sympa, hein. Je remercie vraiment les organisateurs, mais ben voilà, je me dis, avoir passé tant de transport pour ça, ça fait quand même beaucoup beaucoup d'efforts. Donc je suis pas sûr que je le referais. Mais du coup aussi, on a parlé entre vidas, c'était une discussion assez intéressante, souvent sur bah, qu'est-ce parce que c'est un peu mieux quand même si on se coordonne un peu plus sur qu'est-ce qu'on exige quand on interview, enfin, sollicité de la sorte. Et c'est vrai que moi, je commence à demander de plus en plus cher. En gros, je vois de plus en plus ça comme une contrainte. Bon, après, c'est aussi parce que on me sollicite de plus qu'avant, donc c'est forcément c'est lié. Mais typiquement, des réflexions que je me fais, c'est bon, déjà, est-ce que je vais passer un bon temps? Est-ce que si c'est avec des gens sympas, c'est vrai que ça rajoute. Si c'est pour une bonne cause, une petite association, bah ça rajoute. C'est mieux, quoi. Et du coup, je suis prêt à te demander moins. Voilà, si ceux qui organisent des événements pouvaient peut-être penser à ça, mais
Inviter des
globalement.
gens sympas, vous paierez moins cher.
Ouais. En pratique, en tout cas, ça joue
Ah
directement.
ouais.
Mais après, sinon, maintenant, enfin, si c'est une entreprise, clairement, je demande de plus en plus cher. Si ça m'apporte quelque chose aussi, parce que voilà, si c'est l'occasion de parler devant un public de gens influents, par exemple, ben, bon, je suis prêt à demander moins, du coup. Mais si c'est un. Maintenant, en gros, ouais, je le dis un peu publiquement, comme ça va peut-être me permettre de. Parce que je suis toujours gêné de devoir refuser des sollicitations où c'est pour la bonne cause, j'entends bien, mais bon, enfin, ça doit être pour la bonne cause, ça me prend beaucoup de temps et c'est fatigant et. Ouais, je.
Non. Mais il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Là,
Ouais.
j'en ai discuté il n'y a pas longtemps parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé un projet à qui j'ai dit non.
Ouais.
Parce que bah, maintenant, en fait, quand on propose un projet, très rapidement, je pose la question de c'est quoi votre budget? Parce qu'en fait, ça
Ouais.
sert à rien de passer une éternité à discuter si à la fin, de toute façon, ça va demander 40 heures de travail et que tout est bénévole. Bah, j'y vais pas, je peux pas me le permettre.
Ouais.
Et puis j'ai même pas forcément envie de le faire parce que quelque part je trouve que c'est un manque de respect de se dire ah cette personne va travailler pour nous sans se dire ce travail mérite salaire.
Ouais.
Il y a un truc qui me gêne un peu là-dedans. Tiens, on vient te chercher pour tes compétences, mais ces compétences-là méritent pas une rémunération. Je trouve qu'il y a un truc un peu paradoxal.
Ouais.
Et du coup, ce que j'expliquais aux étudiants en question, c'est que bah, pour que j'accepte un projet, il faut que je m'y retrouve d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Ça peut être financier, ça peut ne pas être financier, ça peut avoir accès à un lieu de tournage, pouvoir rencontrer des personnes que j'ai très envie de rencontrer, mais
Ouais.
s'il n'y a aucune compensation d'aucune façon, pourquoi j'irais en fait?
Ouais. Ouais. Ouais, donc en effet, c'est une
Et, ouais.
question
Et
qui
après, ouais,
va.
clairement, au-delà de ça, tu vois, tu mentionnais le transport. Moi,
Ouais.
je sens l'impact du fait d'être à Toulouse.
Ouais.
Parce que du coup,
C'est
pour rejoindre Paris depuis Toulouse, c'est
loin.
l'enfer,
Ouais.
vu qu'il n'y a pas de TGV. Donc, c'est ou bien il faut prendre l'avion et ça coûte un peu cher, ou bien il faut prendre le train et ça prend plus d'une demi-journée et ça coûte aussi assez cher en pratique. L'avion est parfois même moins cher que le train. Et là, ça me pose un
Ouais.
problème moral parce que dans l'absolu, j'aimerais beaucoup ne moins prendre l'avion, voire ne plus prendre l'avion, mais en étant à Toulouse, c'est compliqué.
Ouais.
Et du coup, il y a des gens qui me proposent des projets où quand je demande juste que le transport soit pris en charge, c'est pas possible. Et
Ouais.
là, clairement, c'est un
Voilà.
refus. Il y a un truc que je ne fais plus, c'est avancer de l'argent, enfin, payer de ma poche pour participer à un projet. Ça, je peux pas, en fait. Je peux pas me le permettre. Et
Ouais.
puis, vraiment, ça me pose un problème, quoi.
Ah ouais. En gros, maintenant, ce genre de truc, pareil, je refuse, quoi. Y a peut-être le seul cas où c'est vraiment un truc d'altruisme efficace, en genre où je suis peut-être prêt à du coup, faire mon action altruiste, quoi. Mais sinon, c'est. Et puis, faut voir même en termes d'action, parce que bon, moi, je raisonne un peu en termes d'impact aussi. Le temps que je passe à donner une conférence, à préparer la conférence, à faire le transport, c'est beaucoup de temps que j'aurais pu dépenser à travailler sur une autre vidéo ou autre chose qui aurait également un impact. Et voilà, je prends ça maintenant, tout ça en compte.
Ouais, mais
Et
du coup, je pense que tu vois très bien pourquoi j'ai eu du mal à répondre à ta question avec une règle franche et nette à respecter. C'est
ouais.
impossible. Il y a beaucoup trop de paramètres.
Ouais, c'est très. Clairement. Clairement.
Mais en même temps, je pense qu'il faut pas qu'on ait honte de dire que c'est normal qu'on soit payé pour travailler. Tu vois, il y a
Ouais.
un espèce de tabou comme ça dans la communauté des vulgarisateurs du web, parce que c'est pas que les vidéastes, où bah comme on fait un travail qui est déjà bénévole à la base pour produire du contenu. C'est vrai que potentiellement on peut être considéré comme des prestataires un peu low cost où il n'y a pas besoin de prévoir autant d'argent. Et comme on parle pas d'argent entre nous, parce que culturellement c'est pas un truc qui se fait beaucoup,
Ouais.
ben on peut se faire avoir beaucoup plus facilement.
Ouais. Non, clairement. Et puis, il y a un peu cette idée qu'on est un peu des. Enfin, on fait ça pour le bien, quoi. Enfin, on promeut la science, pour la beauté de la science, ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a un peu cette idée que, notamment, à travers pas mal d'associations, enfin, voilà, les associations sont un but non lucratif. Voilà, le but, c'est de faire que le monde aille mieux. Et du coup, l'argent est un peu tabou dans ce. Mais si on veut se professionnaliser, vraiment avoir des activités durables et même juste bien faire notre boulot, bah c'est important en fait d'avoir de penser à la rémunération et de penser à quelque chose de plus stable, plus durable.
Ouais, c'est ça, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du côté instable de ce que c'est, parce
Ouais.
que ben, on peut en entendre des arguments du type oui, mais t'as des dons sur Tipeee, etc., ça te donne du confort. Ouais, mais les dons sur Tipeee, c'est mensuel.
Ouais.
Il suffit qu'il y ait un bad buzz sur n'importe quoi, et puis le mois d'après, il n'y a plus rien, quoi. Donc,
Ouais.
même les gens qui ont des gros revenus sur Tipeee peuvent pas considérer ça comme une source de revenus stable. C'est pas possible.
Ouais. Ouais, puis souvent, enfin même les ouais, enfin même les gros salaires sur Tipeee sont pas enfin puis en plus il faut compter les taxes et tout ça
Oui.
au final c'est plus de l'échelle du SMIC
Oui, clairement.
d'autres choses et c'est vraiment juste une minorité qui sont à l'échelle du SMIC.
Moi, je suis à 60 euros par mois, 70 euros par mois.
Ouais.
Clairement, c'est pas avec ça que j'ai gagné de l'argent. Ça sert à
Ouais.
payer le logiciel de montage, en gros. Et c'est déjà super bien, tu vois, mine de rien. Après, parallèlement à tout le raisonnement sur on peut pas se permettre de bosser gratuitement, chaque petit soutien a une vraie importance. Parce que, comme je disais, faire des vidéos, ça coûte de l'argent. Donc, il y a plein de vidéastes qui sont déficitaires. Et le simple fait de ne pas perdre d'argent, ben, c'est déjà un grand confort. Et ça, pour le coup, ça vient des petits dons sur Tipeee qui permettent d'amortir l'achat de matériel, les frais de déplacement, etc. Donc, oui, on a besoin de payer notre loyer et ça se fera pas avec un euro. Mais en même temps, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on n'attend pas que ce soit nos viewers qui nous payent notre loyer. Et que chaque petit soutien compte, vraiment. Moi, je sais que quand j'ai un nouveau type de 1 euro, ça me fait plaisir. Ouais. C'est parce que c'est une démarche active d'aller faire un effort pour soutenir un créateur, etc. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect implication que ça représente.
Ouais. Alors, moi, je suis dans une situation un petit peu différente, mais... ça fait toujours plaisir quand qu'on me donne de l'argent sur Tipeee, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont plus besoin que moi. Et... Bon, c'est écrit sur la page Tipeee. parce que ouais, j'ai la chance d'avoir un bon salaire. J'habite en Suisse, je suis payé par une université en Suisse, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont plus besoin de cet argent que moi.
Bah, t'es pas le seul à avoir ce discours. Hein. Si ça peut te rassurer, je l'ai déjà entendu deux, trois fois.
Ouais. Sinon, récemment, il y a eu une discussion autour de, donc, auquel tu as participé, voire que tu as initié autour de l'adhésion au Café des Sciences.
Oui, bonjour, c'est mon côté mettre les pieds dans le plat.
Je pense que c'est un sujet important, donc.
Ouais, si alors, c'est le moment de faire un petit point. Qu'est-ce que le Café des Sciences?
Ouais. Vous avez entendu parler du café? Vous connaissez donc, le café?
Le Café des Sciences, c'est une association, alors qui a un peu plus de 10 ans maintenant, mais je voudrais pas dire de bêtises sur la date, qui à la base avait été créée pour rassembler des blogueurs scientifiques, pour créer une communauté de blogueurs et pour permettre de relire les scripts. Donc, dès le début, ça avait ce double objectif de centraliser du contenu pédagogique sur Internet et d'améliorer la qualité du contenu en question. Depuis, ça a énormément grossi. Il y a un certain Pierre Kerner qui est passé par là, qui a créé la version pour les vidéos, la version pour les BD, et récemment, tout a refusionné. Donc maintenant, il y a le Café des Sciences, et au sein du Café des Sciences, on trouve des vidéos, des podcasts, des blogs, du dessin, plein de formats différents, avec pour point commun de partager du contenu scientifique, en prenant scientifique au sens large, puisqu'il a été voté qu'on n'incluait pas que les sciences « dures », entre guillemets, là-dedans. Et là-dedans, il y a l'idée que ce contenu doit être fiable. Et pour ça, il y a une procédure d'évaluation. C'est-à-dire que pour rentrer au Café des Sciences, il faut candidater, il faut que la candidature soit validée. Et cette validation passe par une évaluation des gens qui sont déjà membres de l'association, qui vont regarder les contenus, et qui, à partir d'une liste de critères qui est publique, disent « ce contenu est approprié pour rejoindre le café, ou ce contenu n'est pas approprié pour rejoindre le café ». Ça, c'est le topo général sur le fonctionnement du truc.
Ouais. Et le problème?
Et le problème, c'est que, un problème récurrent des grosses communautés. C'est-à-dire que là, on est à peu près 200 personnes au Café des Sciences.
Ouais.
Et évaluer des contenus, ça prend énormément de temps. Si on veut pouvoir s'exprimer de façon fiable, il faut aller regarder, ou des vidéos, ou des articles de blog, quel que soit le support. Mais il faut aller en regarder plusieurs. Si c'est pas notre domaine de compétence à la base, ce qui est quand même très souvent le cas parce que les thématiques sont hyper variées, bah, faut potentiellement aller chercher des sources, vérifier, croiser, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et le Café des Sciences intéressant les gens, il y a beaucoup de candidatures à évaluer à chaque session d'évaluation. Et forcément, il y a un effet de délégation. On se dit, c'est bon, on est nombreux, les candidatures seront évaluées, et du coup, la proportion de votants diminue. Ce que me disait Alice, donc de la chaîne Alice dans les étoiles, qui a regardé un peu les statistiques parce qu'elle fait un mémoire là-dessus, c'est que le nombre de votants est à peu près stable, alors que le nombre de cafetiers augmente.
Et il y a une diffusion de responsabilités.
C'est logique. Hein, c'est plus le groupe est grand, plus chacun pense que le groupe va gérer sans avoir besoin de s'en occuper individuellement. C'est un truc hyper naturel. Mais sauf que du coup, ça pose vraiment une question qui est de, pour considérer le contenu comme fiable, il faut qu'il ait été approuvé par combien de personnes? Est-ce que le nombre de validations est important ou pas? Et ça
Ouais.
lance toute une réflexion sur c'est quoi un bon critère d'inclusion, en fait.
Ouais.
Est-ce qu'il vaut
Ouais.
mieux que ça ait été regardé rapidement par 50 personnes ou que ça ait été évalué en détail par 5? Je
Ouais.
sais pas. Voilà, donc il y
Ah,
a un groupe de travail en ce moment là-dessus. On va un peu se
c'est.
creuser le cerveau, mais ça soulève beaucoup de questions intéressantes.
Ouais. Ok, du coup, quoi comme question?
On est sur une communauté qui repose sur le bénévolat. Donc,
Ouais.
il y a une question de qu'est-ce qu'on peut imposer aux gens? Est-ce qu'on peut obliger les gens à évaluer des contenus? Et si oui, à quelle fréquence, quelle quantité?
Ouais.
Parce que le but, c'est pas que la communauté redescende en nombre parce qu'on demande trop de travail. Le but, c'est juste que l'étiquette de fiabilité associée à l'association reste valide.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on peut obliger les gens à évaluer du contenu ou pas? C'est une vraie question. Est-ce que c'est vraiment le nombre d'évaluations qui compte ou est-ce qu'il vaut mieux juste donner les moyens aux gens d'évaluer plus dans leur champ de compétences pour qu'ils soient plus pertinents en tant qu'évaluateurs? Et voilà. Et puis après, il y a des questions très pratiques de certaines modifications demandent un vote en assemblée générale et doivent être validées par tout le monde parce qu'elles font changer les statuts de l'association, donc elles vont être longues à être mettre en place. Alors que d'autres choses peuvent être juste des éléments d'organisation pratiques, en identifiant mieux les thématiques des candidatures, par exemple, qui peuvent être mises en place sans changement des statuts, donc qui peuvent être mises en place demain.
Ouais.
Et voilà, donc il y a une réflexion sur le court terme et le long terme, en ayant en tête que ben, tout le monde fait ça bénévolement et qu'on peut pas reprocher aux gens de ne pas s'impliquer plus qu'ils ne
Ouais.
le font, mais qu'il faut pas que la crédibilité du contenu en pâtisse non plus.
Ouais. Ah, c'est une problématique très, très, très difficile, qu'il faut qu'il d'ailleurs n'est pas sans rappeler enfin, la problématique des peer review en recherche, quoi.
C'est exactement l'idée, ouais.
C'est exactement finalement le même problème, et parce que souvent on veut arriver à une décision finalement, et en fait c'est très complexe, quoi, et on manque de main-d'œuvre, et puis les gens sont pas payés pour le faire. Ça ressemble tellement à la recherche.
Dans le peer review, je pense qu'il y a encore un aspect un peu plus compliqué, c'est tout ce qui est conflit d'intérêts.
Ouais.
Là, au Café des Sciences, on n'est pas sur un milieu où les gens sont en concurrence les uns avec les autres. Alors que moi, je sais que dans mon domaine de recherche, qui était un
Ouais.
domaine plutôt bien financé, il y avait une énorme compétition entre les gens. Et que, par
Ouais,
exemple,
ça.
quand on envoyait un papier à un journal, en général, on pouvait préciser une liste de noms dont on ne voulait pas qu'ils fassent partie des
Ouais.
reviewers parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient accès aux données non publiées.
Ouais.
Ça, c'est tout un aspect encore plus compliqué de copinage,
Ouais.
qui est
Ouais.
malheureux,
Ouais.
hein, mais qui existe.
Ouais. Après, j'imagine qu'il y a quand même aussi des problèmes de copinage. Bon, c'est pas à la même échelle que la recherche, sans doute, mais entre vidéastes, bon, il y en a qui se connaissent, quoi, forcément. Et c'est pas. Ouais. Il y a un autre truc, c'est que c'est pas si évident de. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va parler de maths, au Café des Sciences, enfin, ou n'importe quel sujet, il y a différents niveaux de rigueur, c'est pas juste ou pas juste, pas fake news ou true news, c'est souvent beaucoup plus nuancé que ça, et c'est pas facile. On a peut-être pas tous le même curseur de dire quand est-ce que c'est suffisamment rigoureux pour être au café. Et puis il y a un peu aussi cette idée, enfin, parce qu'il y a aussi des contenus qui sont au sein du café, il y a une hétérogénéité, quoi. Enfin, dedans, je pense au contenu de Stéphane. Bon, il se trouve qu'il est président, donc ça vaut mieux que c'est une bonne chose que son contenu soit. Mais voilà, il y a vraiment un effort de mise des sources, de relecture par des chercheurs. Enfin, il y a vraiment un effort de rigueur qu'on ne retrouve pas forcément chez tous les vidéastes du Café des Sciences. Et du coup, enfin, il y a un peu ce problème que, bon, bah, si on accepte du contenu qui est de moins bonne qualité, enfin, de moins bonne rigueur, on va dire, ça peut ternir un petit peu l'image du café global, et du coup, en particulier, l'image des vidéos de Stéphane.
Alors, l'impact des critères d'évaluation sur la reconnaissance du contenu produit par le président. Non, mais c'est vrai, c'est une question récurrente dans la vulgarisation. C'est vulgariser d'une façon ou d'une autre même si je déteste le dire, ça revient à simplifier.
Ouais.
Et simplifier, ça peut simplement être changer du vocabulaire pour rendre les mots plus compréhensibles, ou ça peut être simplifier les idées, passer sous silence des exceptions, etc.
Ouais.
Il y a des façons de le faire qui sont plus ou moins rigoureuses. Je sais que
Ouais.
personnellement, le conditionnel est mon ami,
Ouais.
mais il y a des gens qui aiment pas ça parce que ça donne l'impression que tout est flou et qu'on sait pas trop à quoi se fier et c'est pas forcément une bonne représentation non plus.
Ouais.
On va pas parler de bayésianisme et de curseur
Ouais.
de, voilà. Tu vois très bien ce que j'ai en tête et je pense que ton public voit très bien ce que j'ai en tête aussi. Mais voilà, donc donner la sensation que rien n'est certain, c'est aussi un peu dangereux parce qu'en fait, c'est pas parce que notre certitude n'est pas à 100% que c'est pas une certitude.
Ouais.
Mais voilà, il y a toujours des vraies questions de où on place le curseur, et je pense que c'est très personnel.
Ouais.
Et même pour un même producteur de contenu, moi je sais que sur mes différents formats, j'ai pas du tout le même curseur.
Ouais.
J'ai commencé avec un format de biologie moléculaire où là j'essayais d'être vraiment hyper rigoureuse. En gros, je plaçais le critère de rigueur à peu près au niveau de mes cours de prépa.
Ouais.
C'est-à-dire, on n'est pas forcément à la pointe du truc avec toutes les précautions d'usage, mais on est quand même sur du savoir bien établi
Ouais.
et expliqué assez en profondeur. Et puis plus tard, j'ai lancé un format qui là vient plus de mon quotidien de médiatrice, qui consiste à présenter des petites expériences sympas, faciles à refaire à la maison. Et où
Ouais.
là, l'objectif du format, c'est que les gens trouvent les expériences sympas et les refassent, pas de les
Ouais.
noyer sous les explications. Et du
Ouais.
coup, sur ce format-là, les explications de trucs hyper compliqués à base de tension de surface, etc., doivent tenir en 30 secondes.
Ouais.
Et forcément, ça oblige à faire des choix drastiques de simplification de vocabulaire, etc. Et j'essaye toujours d'avoir des formules qui rendent clair que c'est une simplification, parfois un peu abusive, et je mets des liens dans la description, etc. Mais quand j'écris, j'ai bien conscience que mes curseurs n'ont rien à voir.
Ouais.
Et en même temps, j'ai la sensation que les deux contenus sont légitimes pour une structure comme le Café des Sciences, qui a pour but de produire du contenu fiable, mais aussi d'attirer les gens vers le contenu scientifique. C'est-à-dire
Ouais.
que si on n'accepte que du contenu hyper exigeant, le public va forcément se réduire, et ce serait
Ouais.
dommage.
Ouais. Ah, c'est ce qu'expliquait aussi David sur Twitter ou dans une interview avec Absol où il y a enfin en gros il y a un peu deux objectifs qu'on se donne quoi, être accessible et être rigoureux et ouais, on peut pas, il y a un compromis à trouver, on peut pas être à fond sur les deux et on peut être quelque part sur les deux et ouais et
Et puis même en temps de production. Moi, je sais que mes vidéos où je simplifie les explications, une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce format, c'est que ça me prenait beaucoup moins de temps que les vidéos où je vais passer 30 heures juste sur la biblio.
ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pareil. Quand je fais les podcasts, enfin, les interviews comme ça, c'est beaucoup moins préparé. C'est l'occasion de. C'est beaucoup moins coûteux en temps, en énergie à faire. Et je
Et
pense qu'il y a
pourtant, à
vraiment un
chaque fois, ça
intérêt.
dure 3 heures.
Et ça ne dure que 3 heures, hein, de préparation, enfin de tournage, quoi. C'est un peu ça l'objectif, quoi. Ça fait très peu de temps. Et je trouve que c'est très important en fait que ça dure parce qu'en fait je pense qu'on apprend beaucoup par répétition en baignant dans le domaine quoi. Mais enfin il y a des bêtises qui sont dites et puis même dans mes vidéos sérieuses de temps en temps bah je dis une énorme bêtise. Donc c'est très coûteux d'enlever toutes les bêtises, ça prend un temps essentiellement infini.
C'est très coûteux, puis comme tu dis, c'est impossible de réussir à 100%. Moi, il y a des trucs que j'ai dit dans mes premières vidéos qui, à l'époque, n'étaient pas des bêtises et qui maintenant en sont, par exemple. Tu vois,
Ouais.
donc des fois, tu fais tout bien et puis en fait, bah, l'état de la recherche avance. Et par exemple, il y a une affirmation que j'avais entendue en cours à l'époque, comme quoi il y aurait 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans un corps humain.
Ouais.
Et c'est hyper marquant comme chiffre.
Ouais.
Et sauf que c'est un chiffre qui est très vieux et que estimer le nombre de bactéries dans un corps humain et estimer le nombre de cellules humaines dans un corps humain, c'est très compliqué. Et il y a une publication qui est sortie il y a quelques années qui disait que ce chiffre-là est vraisemblablement faux et qu'on est plus de l'ordre de grandeur de autant de bactéries que de cellules humaines. Et voilà. Et il y a souvent des choses comme ça qui changent. Dans le domaine de la microbiologie ou de la biologie cellulaire, on a des outils qui évoluent très vite, donc on a des connaissances qui évoluent très vite. Et même si on était parfait et qu'on faisait jamais d'erreur, bah, ce qu'on dit peut devenir obsolète 6 mois plus tard. Et ça, c'est à mon avis un des gros problèmes de YouTube, c'est l'absence de possibilité de corriger.
On a parlé avec Viviane, c'est un vrai problème. donc il y a Philippe de Courzeguzac qui disait à YouTube Educon, aux gens de YouTube, qui était quasiment en train de les supplier de leur permettre de le réupload d'une vidéo, d'une nouvelle version en fait d'une vidéo. Et les deux versions seraient toujours disponibles pour voilà, si les gens veulent accéder à l'ancienne version. Avoir quand même cette nouvelle version qui permet de corriger et puis d'éviter que un re-upload complet, parce qu'un re-upload complet, on perd l'URL.
On perd les commentaires, on perd tout.
Et puis en plus, ça fait une notification de plus pour les gens. Bon, bref,
Non, on pourrait
c'est compliqué.
imaginer plein d'outils pratiques, genre simplement pouvoir rajouter une image en début de vidéo qui, elle, pourrait être modifiable. Et sur cette image, on fait un erratum, on précise qu'il y a un erratum à aller consulter dans la description. C'est pas un travail technique monstrueux, je pense. Et ça aiderait. Moi, là, j'étais un peu dégoûtée parce que j'utilisais les annotations, comme tout le monde, je pense, pour corriger. Et du coup, sur mes premières vidéos, il y en avait quelques-unes. Et YouTube a
Et il n'y avait plus.
supprimé les annotations.
Il n'y a plus.
C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus en rajouter, mais maintenant, les anciennes ont disparu.
Ça c'est horrible.
Donc, mes correctifs ont disparu et ça me rend malade.
Maintenant, du coup, il y a cette vidéo où je dis que 39 est un nombre premier et il n'y a même plus la notation pour dire qu'en fait, je me suis trompé, quoi. C'est horrible.
Voilà. Après, ça fait aussi relativiser dans le sens où, comment dire, c'est normal qu'il puisse y avoir des erreurs dans des vidéos et c'est important de toujours les regarder avec esprit critique et de rester vigilant. Et je pense que c'est un message qu'on retrouve très très souvent chez les vulgarisateurs du web en particulier parce qu'on a des supports fixes, quoi. Mais même les médiateurs qui animent des ateliers sur le terrain, de rester vigilant. Je sais que à l'endroit où j'ai travaillé au tout début, il y avait un gros travail qui était fait sur ça, et il y a une conférence expérimentale sur la chaîne de l'ESPGG qui est trouvable sur Internet, que je trouve super parce qu'ils font plein d'expériences hyper démonstratives, et au milieu des expériences, il y en a une qui est une entourloupe. C'est-à-dire qu'ils font l'expérience comme si c'était un truc comme les autres, quoi, sauf qu'en fait, ils mentent aux gens. Il y a un truc caché à un moment et ils demandent aux gens de proposer des explications. Les gens se creusent la tête. Et la conclusion du truc, c'est, bah, en fait, on est juste en train de vous mentir parce que rien ne nous empêche de vous mentir. Et là, on le fait volontairement, mais on pourrait le faire sans que ce soit volontaire. Et de réveiller un petit coup de boost comme ça. Gardez votre esprit critique, même si la personne qui vous parle est compétente et maîtrise son sujet, vous n'êtes jamais à l'abri d'une erreur. Et j'avais trouvé l'idée merveilleuse.
c'est pas mal. Je suis passé récemment à la radio suisse où on parlait, enfin c'était le sujet, c'était les médias en général et en particulier le journalisme scientifique. Donc il y a une petite partie où ils ont parlé de YouTube et de la validité en gros de ce qui est dit sur YouTube. Je vais en profiter pour critiquer tout le monde et dire que la validité du contenu en général à toutes les échelles en fait c'est un problème difficile. Et puis même au niveau de des publications scientifiques il y a des trucs à prendre avec des pincettes. C'est souvent le corpus scientifique est beaucoup plus fiable que la dernière publication scientifique et faut faire gaffe à tout ça et c'est pas facile. C'est pas
Non.
facile, il n'y a pas
Et
un
bah,
certificat vrai ou faux.
après, c'est un truc, ça pour le coup, c'est quelque chose qui me restera, je pense, toute ma vie de mon expérience de recherche. C'est que quand on fait de la recherche, on est obligé de passer par un processus mental qui nous fait prendre conscience que rien n'est jamais complètement certain. Et ça implique une certaine modestie d'être prêt à remettre en cause le truc sur lequel on travaille depuis des années. S'il y a des arguments suffisants qui viennent nous remettre en cause. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'on a beau le dire, c'est une chose, et le faire et être vraiment prêt à se remettre en cause si on nous prouve qu'on a tort, en fait, c'est hyper difficile. Et c'est assez lié à toutes ces questions d'esprit critique, je trouve, dans le sens où bah, ça implique une modestie vis-à-vis de la connaissance. D'avoir l'idée que bah, les curseurs ne sont jamais à 100% et nos curseurs doivent rester mobiles tout le temps. Et ça implique aussi nos curseurs de confiance en un interlocuteur donné.
Ah, et puis, ouais. Même le plus brillant peut d'entre nous peut dire parfois des petites bêtises. C'est pas facile.
Après, il y a un truc rigolo là-dessus et je te rejoins sur ce que tu disais. Systématiquement, quand je suis invitée à intervenir autour de la vulgarisation sur Internet et sur YouTube, il y a quelqu'un, à un moment ou à un autre, qui fait remarquer que quand même, on peut pas trop se confier au contenu scientifique sur Internet parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Et c'est une remarque qui est vraie, mais je trouve ça assez sidérant que dans la tête des gens, ce soit si fortement associé à Internet. En général, quand on dit ça, je réponds oui, effectivement, il y a du bon et du mauvais sur YouTube, mais je vous rappelle qu'à la télévision, l'histoire est incarnée par Laurent Deutsch et Stéphane Bern. Peut-être que c'est questionnable aussi en termes de rigueur. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que sur la télévision publique et à la radio publique, on entend tout et n'importe quoi sur le plan scientifique aussi, et ça a l'air d'interpeller personne, quoi.
Oui, j'ai pas osé le dire pendant l'interview, mais aujourd'hui, par exemple, je ferais beaucoup plus confiance aux vidéos de David ou de Stéphane que à ce qui sort dans un journal scientifique.
Bah là, par exemple, j'ai lu le livre de Harari, Sapiens, une histoire de l'humanité il n'y a pas longtemps, parce qu'on me l'avait offert. Et il y a des choses qui m'ont interpellée, et du coup, je suis allée demander l'avis de Stéphane. Parce que j'ai beaucoup plus confiance en Stéphane et en ce qu'il va me répondre, en connaissant le domaine, que dans l'auteur de ce livre que je ne connais pas. Et c'est pas parce qu'il a écrit un livre que c'est nécessairement fiable, en fait.
Moi, je pense qu'on a dit suffisamment de bien de Stéphane pour que nous rejette pas du café.
C'est bon, président, c'est validé.
C'est bon.
Ouais, et après, il y a un autre truc que je trouve important parce que par rapport à ces histoires de fiabilité des vidéos, c'est le positionnement des profs. Parce que j'avais fait une intervention pour des enseignants pour leur donner des conseils pour utiliser des ressources vidéo dans leur classe. Et ça les préoccupait énormément d'être sûrs de projeter quelque chose de fiable. Ce que je peux comprendre, tu vois, quand t'es enseignant, t'as envie que le contenu que tu délivres à tes élèves soit hyper rigoureux et qu'il n'y ait pas de mauvaises idées qui se diffusent. Et en fait, j'avais passé un certain temps à essayer de leur faire intégrer le fait que ce n'était pas grave s'il y avait des erreurs. Et en y réfléchissant, je pense que si j'étais prof, je diffuserais volontairement des vidéos avec des erreurs à mes élèves. Et à la fin du visionnage, je leur dirais, bah voilà, dans cette vidéo, il y a trois erreurs énormes. Lesquelles? Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, pour les éduquer à l'esprit critique de leur diffuser du contenu avec des erreurs et de chercher les erreurs avec eux que de chercher toujours du contenu irréprochable. Et je me suis fait la réflexion que dans toute ma scolarité, on m'avait toujours présenté que du contenu irréprochable. Et en fait, c'est très très dommage.
Oh, non, peut-être que même le contenu qu'on nous enseigne, bon, bon, en maths, enfin, jusqu'au lycée, en fait, il y a moyen de, pour un mec, un puriste, il y a toujours moyen de dire, ah, mais c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'il y a besoin de plus de critiques. Enfin, je sais qu'à l'époque, on apprenait la bio à l'école, on parlait beaucoup de ce qui était vivipare, ovipare, reptile, enfin, tous ces mots qui sont pas très phylogénétiques, on va dire.
Juste la notion d'espèce, en fait, elle est relativement mal expliquée.
Peut-être même qu'il faut faire peut-être preuve de plus de critique de ce qui est dans les livres de cours, quoi.
Ouais, après, ça s'inscrit dans toute une démarche pédagogique, dans le sens où s'il y a juste un prof qui fait ça, je ne sais pas quel impact ça aurait sur les élèves, s'ils se diraient juste, bon, ce prof, il est quand même un peu chelou. Ou si ça influencerait vraiment leur façon de penser. Parce que des fois, il suffit d'un prof pour te retourner la tête et que tu vois le monde différemment, hein. Ça arrive. Mais c'est pas facile à accepter l'incertitude et la remise en question. Enfin, moi, ça m'a pris un certain temps quand j'ai commencé à faire de la recherche, à sortir de l'idée que, si ça avait été prouvé, c'était acquis une bonne fois pour toutes.
Ouais, c'est pas facile. Et puis je pense qu'il y a aussi cette tendance, notamment en mathématiques, en tout cas, à considérer que ce qu'on nous apprend, c'est vraiment la bonne façon de faire, c'est la seule façon de faire. Et alors qu'en fait, la théorie des ensembles, c'est une façon de faire des maths. Il y en a d'autres. Et que du coup, via l'enseignement, peut-être notamment le fait que peut-être qu'on a des interrogations, on est censé un peu recracher le cours, un peu, et puis il y a vraiment la seule façon, enfin la façon à faire, de faire, très classique, qui fait qu'on a tendance du coup à donner trop d'importance à ça et à considérer que c'est la seule façon de faire. Mais c'est très difficile d'enseigner cette modestie épistémique.
Après, c'est marrant parce que moi, les maths, c'est vraiment la matière où j'ai le plus souvent eu cette sensation de découvrir un truc nouveau et qu'on m'avait menti avant. Je sais pas comment le formuler, mais tu vois, quand tu apprends à compter, au début, c'est 1, 2, 3, 4, puis on t'explique qu'il y a des nombres négatifs, puis qu'il y a des virgules, puis qu'il y a des
Ouais, c'est
complexes.
vrai.
Et mine de rien, c'est une bonne illustration de comment partir d'un truc très simplifié et rajouter des petits bouts de complexité. Petit à petit.
Sinon, j'ai vu tweeter hier, j'essaie de retrouver le tweet,
Qu'est-ce
sur
que j'ai
un...
encore fait?
Qu'est-ce que t'as encore fait? T'as tweeté sur une publication qui a été partagée par le Café des Sciences. Donc le Café des Sciences avait automatiquement partagé quelque chose et beaucoup de gens s'étaient plaints de la validité scientifique de ce qui avait été partagé par le Café des Sciences.
En effet, bah ça c'est intéressant parce que, comme on disait, il y a une procédure d'évaluation au départ, et une fois que les gens sont membres du Café des Sciences, le partage des contenus est automatisé. On peut choisir de partager tout son contenu ou juste une partie en mettant des mots-clés, mais le partage est automatisé parce que c'est pas gérable de partager manuellement sur plusieurs réseaux sociaux et sur le site le contenu de 200 personnes. Et du coup, c'est très important d'avoir un système d'alarme a posteriori. Parce que quelqu'un peut avoir fait que des trucs très bien et puis d'un coup vriller complètement. C'est arrivé plusieurs fois hein, déjà. C'est Nozman qui avait fait un vrai ou faux sur l'ADN qui était bourré d'erreurs factuelles. Et quand on lui a dit, il a supprimé et il a refait une vidéo en travaillant avec un biologiste, Pierre en l'occurrence, pour s'assurer que ce soit hyper fiable. Donc c'est un système qui fonctionne bien et qui, au Café des Sciences, fonctionne à la fois sur les réseaux publics. Donc là, c'est des gens sur les réseaux sociaux qui ont interpellé, mais qui peut aussi fonctionner en interne. On a déjà eu des échanges de mails pour dire, oui, bah, ce contenu, il est quand même un peu limite, il faudrait qu'on fasse un truc. Donc c'est important pour le côté fiabilité, mais c'est aussi très important de garder en tête que tout ça est du bénévolat et que la bienveillance est la moindre des choses. Et c'était un peu ce à quoi je voulais arriver avec mes nombreux tweets d'hier. C'est que on peut faire remonter qu'un contenu est problématique et que ça paraît pas normal qu'il soit partagé par telle structure, etc. Mais il y a plusieurs façons de le dire. Et là, en l'occurrence, moi, j'étais assez surprise par le ton des remarques. Et le fait que, alors, moi du coup, j'ai pas vu la première version de l'article, mais donc a priori la première version était vraiment problématique dans le sens où elle était militante plus que scientifique, et la version que moi j'ai vue, c'était devenu un article de botanique. Bon, je suis pas botaniste, donc je peux pas évaluer la pertinence du contenu, mais ça m'a pas l'air alarmant un article de botanique en soi. Et il y a des gens qui ont continué à critiquer après que cette version soit sortie et qui clairement critiquaient juste sur le titre. Parce que le titre faisait appel à la pétition sur les coquelicots, etc. Et en fait, c'est juste une version blog du putaclic habituel des vidéastes, hein. Clairement, de mettre un titre un peu provocateur pour, là, au final, avoir un article de botanique, c'est un procédé qu'on connaît tous assez bien. Et voilà, et le fait qu'il y ait des gens qui continuent à critiquer manifestement sans avoir lu l'article, déjà, je trouvais que c'était assez gênant parce que ben, ça veut dire que eux, ils ont pris 5 secondes pour lire un titre et derrière, ça déclenche des heures de travail parce que ben, le Café des sciences fait les choses sérieusement, quoi. Donc quand il y a eu
Ouais.
les signalements, il y a le bureau qui s'est mobilisé pour trouver des relecteurs, pour échanger avec la personne qui a écrit l'article, parce que le but, c'est aussi de
Ouais.
rester bienveillant auprès de l'auteur. Et pas de
Ouais.
l'agresser en disant d'un coup, ah, ton contenu n'était pas assez bien. Ouais, le
Ouais.
but, c'est pas de faire fuir les gens, au contraire, c'est de les aider à améliorer leur contenu. Donc, il y a toute une notion de pédagogie et de bienveillance là derrière.
Ouais.
Voilà. Et tout ça, a fait que j'ai quand même eu envie d'écrire un thread de mon côté là-dessus. Parce que ça me paraissait important de le dire. Et parce que je me suis aussi dit que ça soulagerait un peu le bureau. De ne pas avoir que des messages négatifs dans cette journée qui a été un peu difficile, et de pouvoir rediriger vers les tweets de quelqu'un d'autre au lieu de refaire eux-mêmes les explications à chaque fois. Parce que la journée a quand même commencé pour eux avec énormément de copier-coller pour expliquer que le partage des contenus est automatique. Mais
Ouais.
voilà, je pense qu'ils ont passé un lundi bien compliqué à gérer le problème et qu'ils s'en sont hyper bien sortis. Parce qu'au final, la version qui est en ligne de l'article a été corrigée. La personne qui a écrit l'article a eu des échanges hyper constructifs et n'a pas du tout été brusquée ou quoi que ce soit. Et c'est rassurant que le système d'alarme fonctionne, mais si les gens pouvaient faire les remarques de façon polie et constructive plutôt que à base de c'est quoi cette histoire, ce serait plus agréable pour tout le monde.
Ouais. Je pense que c'est un message bah, que j'aime bien partager. Il faut plus de bienveillance.
C'est ça.
Soyons davantage bienveillants et essayons de voir qu'est-ce qui peut être mieux fait et qu'est-ce qui, enfin, mieux comprendre un peu les choses avant de critiquer à tout va. Est-ce que aujourd'hui le café est devenu un très gros truc? Il y a beaucoup beaucoup de gens. C'est difficile de tout surveiller. Ouais, c'est compliqué et il faut du temps, de la bienveillance et souvent aussi pas mal de temps de travail de la part de pas mal de gens donc qui sont en plus bénévoles donc ouais, plus de bienveillance, ça c'est souhaitable.
Et je crois que ma conclusion à la fin, c'était que, en plus de ça, c'est toujours pas mal de prendre le temps de dire aux gens qu'on apprécie leur travail quand ils font bien, au lieu de juste se
Ouais.
manifester pour critiquer quand il y a un souci. Parce
Ouais.
que ça aide quand même pour repartir, parce que quand on se mange toute une série de critiques d'un coup, alors qu'on n'a pas forcément le contrepoids positif quand tout va bien, ça doit pas toujours être évident de repartir.
Ouais. Et puis même lorsqu'on critique, je sais pas comment le bureau du café a du coup critiqué la personne qui tenait ce blog, mais ouais, j'imagine qu'il y a eu pas mal de bienveillance, y compris dans la critique. On peut être... Ouais, parce que si le but finalement c'est que y ait du contenu de qualité qui soit partagé par le café, bah, faire preuve de bienveillance, c'est sans doute une bonne façon d'y arriver.
Bah, c'est sûr que si, quand quelqu'un produit un contenu qui n'est pas assez solide, la réaction c'est de le critiquer brutalement et qu'il sorte du café mais continue à publier son contenu ailleurs, au final, l'objectif d'améliorer la fiabilité du contenu produit sur Internet, il n'est pas du tout atteint.
Ouais, c'est vraiment dommage. Sinon, est-ce que comment tu vois le futur de la vulgarisation? Est-ce que tu penses que on va avoir des boulots plus moins précaires à l'avenir?
Ça, c'est une grande question. Il y a une différence entre les intentions et les moyens.
Ouais.
Quand je regarde les rapports qui sont remis, parce qu'il y a des stratégies nationales, de la culture scientifique, etc., il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus au niveau des institutions en France, hein, en tout cas. Après, je ne connais pas trop la situation ailleurs, vu que je suis restée en France. Les intentions sont hyper bonnes.
Ouais.
Il y a toute une réflexion, notamment sur le fait de comment mieux impliquer les chercheurs, etc., etc., de construire des nouveaux projets, de s'emparer des nouveaux médias, d'aller construire des tiers-lieux pour aller chercher du public qui ne sont pas forcément concernés à la base. Après, moi, ça me gêne toujours un peu que dans ces beaux rapports d'intention, il n'y ait aucun élément financier ou concret.
Ouais.
Parce que bon, on est dans une période globale de restrictions budgétaires. Il n'y a pas beaucoup de budget pour la science en tant que telle, pour la recherche, pour l'enseignement. Ça paraît logique qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de budget pour la culture scientifique non plus. C'est peut-être une erreur. À titre personnel, je pense que c'est une erreur, hein, parce que l'esprit critique, ça va bien au-delà de la science. C'est pour moi une question de citoyenneté générale. Mais en même temps, l'enseignement, ça rentre aussi un peu dans cette catégorie-là et c'est pas spécialement bien financé non plus. Donc voilà. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué dans les années qui arrivent, dans le sens où les intentions sont très bonnes, mais si les moyens sont pas mis en œuvre, bah les projets verront peut-être le jour, mais ils verront le jour avec des personnels qui resteront globalement précaires. Après, la précarité, elle est aussi liée à un truc qui est qu'il y a beaucoup de petites structures de médiation, et ça, c'est très chouette. Parce que en même temps, si la vulgarisation en France était faite que par des grosses structures avec des fonctionnaires en CDI qui restent toute leur vie, il y aura un problème de dynamisme et d'innovation, vraisemblablement. Et c'est très bien qu'il y ait plein de petites associations qui fassent des trucs à droite à gauche, qui ont du coup pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un à temps plein ou en CDI, mais qui apportent un énorme dynamisme aux actions de vulgarisation. Donc la précarité, elle vient aussi de ça, quelque part.
Ça permet plus de liberté aussi, d'une certaine manière.
Bah oui.
Cool. Bon, bah, je pense qu'on approche de la fin. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter.
Là, pas trop. Je pense qu'on a parlé de à peu près tous les trucs où j'ai des choses à dire.
Quel est le message, quel serait un message clé que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cette interview?
Oh là, j'étais pas préparée pour ça. Non, mais tu vois, par rapport à tout ce qu'on a discuté, je pense que si les gens retiennent juste le message de la bienveillance, c'est peut-être le plus important parce que c'est celui qui s'applique au plus de domaines concrets de la vie quotidienne de chacun. C'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on peut se permettre de critiquer n'importe comment. Et le fait d'être bienveillant sera de toute façon toujours beaucoup plus productif que d'être agressif.
Cool. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Je ne veux pas pouvoir critiquer ça.
Zut.
Est-ce que tu pourrais finir avec deux recommandations ou plus, et j'en fais de vidéos, podcasts, livres ou personnes à suivre?
Ah, alors, qui ne concerne pas une des 50 personnes qu'on a déjà mentionnées plein de fois.
Si
Alors,
tu veux
pour
rester au café, il
les...
vaut mieux citer Stéphane, à ce qu'il paraît.
Non, pour les gens qui sont intéressés par la biologie, bon, il y a plein de chaînes qui parlent de biologie sur YouTube et vous connaissez sans doute déjà, mais il y a deux chaînes qui sont, à mon avis, pas du tout assez connues par rapport à la qualité du travail fourni. C'est la chaîne de Labloose, qui est technicien de recherche et qui fait des vidéos vraiment chouettes, et de Petite Jeanne. Ce sont deux chaînes du Café des Sciences, hein, j'assume mon conflit d'intérêts. Mais voilà, et de Petite Jeanne qui ben, faisait aussi de la recherche jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qui fait de la biologie cellulaire et moléculaire qui aborde des thématiques assez proches de celles que moi je peux aborder. Donc si ce type de contenu vous intéresse, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces deux chaînes-là. Et après, pour contrebalancer un peu la critique que j'ai pu faire tout à l'heure du traitement de la science dans les grands médias, je pense que je ne vais pas le faire découvrir aux gens, mais je recommande quand même chaudement La Méthode Scientifique, qui est une émission de France Culture dont la qualité du contenu est, à mon avis, vraiment très très élevée, et qui, en plus, a fait l'effort, et c'est les seuls, à mon avis, qui l'ont fait de cette façon-là, de s'ouvrir aux vulgarisateurs du web, et de vraiment placer les vulgarisateurs du web qu'ils invitent sur un pied d'égalité par rapport à des journalistes scientifiques ou d'autres intervenants de ce type. Et je tiens à les remercier pour ça, parce que voilà, c'est une reconnaissance de notre travail qui est vraiment pas négligeable. Il laisse aussi souvent la parole à des jeunes chercheurs. Je pense que c'est une des rares émissions que j'ai vues inviter en invité unique une doctorante, par exemple, pour une émission d'1 heure. Voilà. Et cette approche-là, hyper ouverte d'esprit et associée à une rigueur de travail et à une qualité de réalisation vraiment top. Donc, si vous ne connaissez pas ce podcast, vraiment allez voir, ça vaut le coup. Et
Bah, je
merci
suis
Nicolas
soit
Martin.
je puis soit également étant moi-même fan de Nicolas Martin qu'on aime bien embêter sur Twitter. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour les auditeurs bah pensez à faire les trucs classiques liker, commenter tout ça je vous dis à une prochaine fois probablement. Ciao.
Salut!